J'accueille avec grand plaisir pour la troisième fois parce que je suis une femme vernie, Audrey Ventura. Donc, le petit bijou, le voilà. Ce livre, donc, vous pouvez le trouver dès maintenant dans la boutique. Audrey, alors, dis-nous un petit peu. Alors, déjà, présente-toi parce que tout le monde ne te connaissait pas. Si tu peux te présenter, voilà, ce sera déjà bien.
Alors, déjà, je voulais te remercier de m'avoir invité, de ton soutien inconditionnel depuis le début. Vraiment, merci Fiona, et puis du travail que tu fais. Enfin, merci. Et puis, merci à tous. Bon, je ne vous vois pas, je ne sais pas, mais merci d'être là, en tout cas. Voilà. Alors après, faut donc, je suis Audrey Ventura, je suis coach en comportement, coach personnel en comportement. Je travaille sur toutes les problématiques, mais la vie a voulu que je sois, par la force des choses, plus souvent avec des chiens agressifs qu'avec d'autres chiens, même si j'ai aussi des chiots, j'ai aussi des chiens qui sont craintifs, j'ai aussi, mais souvent, la vie a fait que voilà, je suis souvent avec des chiens qui sont agressifs. Et qui après ne le sont plus. Donc ça c'est au terme d'un travail, hein, pas avec je ne suis pas Dumbledore. Au terme d'un travail, voilà. Donc et j'ai écrit du coup 3 livres et je donne des formations, des conférences. Et j'anime une page qui s'appelle Sinoconsulte sur Facebook.
Tu es
Grâce à
basé
vous,
sur où?
tous qui êtes là.
Tu es basé sur quelle région?
À Valenciennes, dans les Hauts-de-France. Voilà.
Tu fais de la visio aussi?
Alors,
Des
mes
rendez-vous en visio?
consultations sont données en visio dans tous les pays francophones depuis maintenant 10 ans. Je travaille via des protocoles vidéo. Je fais de l'analyse vidéo très précise sur des cas de manière. Je travaille de manière très individualisée via des protocoles vidéo qui sont mis en place pour le client avec sa problématique, son chien. C'est vraiment un accompagnement au
Personnel.
plus près du binôme. Voilà, et pour l'étude et ensuite sur le terrain via des séances ou des stages de longue durée.
Ok. Pourquoi ce troisième livre et pourquoi ce thème en fait donc de cette comparaison entre le chien et les enfants?
Alors, le livre est dédicacé à ma fille et à ma chienne, et je dis à Vita et Scar qui m'ont presque tout appris. Et en fait, quand on élève un chien et un enfant, on fait forcément à un moment donné, on voit des similitudes. Et ces similitudes, elles nous frappent et en même temps, on ne va pas tout de suite en parler. On va s'interdire d'en parler parce qu'on a toujours cette menace de l'anthropomorphisme, d'être accusé d'anthropomorphisme. Et à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui s'impose à nous quand on a des enfants et quand on a éduqué des chiens et quand on a élevé ses propres chiens. C'est qu'il y a quand même énormément de choses qui se recoupent. Alors, le propos n'est pas de dire chien égale enfant, enfant égale chien, hein, ce serait ridicule. Le propos est de dire que il y a des analogies dans l'éducation et dans les principes d'apprentissage qui sont vraiment intéressants parce qu'ils sont vraiment de nature à améliorer la relation avec le chien, à l'éduquer de manière développée, de le voir de manière développante aussi, et comparer le chien à l'enfant. C'est pas le propos, c'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau éducatif, au niveau relationnel, et on pourra y revenir, mais les principes d'apprentissage qui sont abordés par exemple Maria Montessori sont les principes d'apprentissage qu'on peut nous voir apprendre et appliquer avec le chien. Notamment le principe de l'environnement maîtrisé, la connaissance par exemple des périodes sensibles, le fait de garder la motivation intacte et d'utiliser la sphère ludique pour l'apprentissage. Le fait de connaître, de savoir que le chien et l'enfant ne maturent pas, leur cerveau ne mature pas dans le stress environnemental, l'attachement, le fait d'avoir une guidance stable qui ne soit pas autoritaire pour pouvoir accéder à l'autonomie, bon, et d'autres, et plein d'autres. Et tout ça. Ce sont les lois de l'apprentissage et de l'éducation de l'enfant. Vous voyez bien qu'on peut les appliquer sans aucun problème au chien. Donc le propos du livre, il est là. Il est à ce niveau-là.
Ok. Et je crois qu'il y a eu tout un projet aussi autour de ce livre. En plus du contenu du livre, il y a une histoire d'enfant.
Oui. Bah oui, parce que plus j'écrivais et plus j'en parlais avec Romain, qui est mon conjoint, plus il nous est apparu à un moment donné que c'était important que le livre soit illustré par des enfants. Alors une fois que cette idée a germé, on l'a gardée et après il fallait voir comment, concrètement, comment faire. Moi, j'avais été contactée déjà à l'époque de la sortie du jeu éducatif Le chien, cet animal qui nous échappe, par Fabrice Lini, qui est le président de l'association belge des pâtes et des classes, et qui a un projet pédagogique qui s'appelle Refuge et tableau noir en Belgique. Il est, lui, professeur de philosophie, via son association, il met en place du matériel pédagogique dans les écoles pour que les instituteurs soient en mesure de sensibiliser les enfants à l'éthique animale. Pas seulement le chien, mais l'éthique animale en général. Bon. Et il m'avait contacté à l'époque du jeu. Voilà. Et j'ai repensé à lui au moment où il s'est agi d'illustrer le livre. Je me suis dit, tiens, je vais contacter Fabrice, je recontacter Fabrice Lini. Voilà, et je lui ai proposé le projet, on a fait une visio et il a été emballé, mais tout de suite, avec plein d'idées. Bon, et ça m'a beaucoup aidé, et surtout, ça m'a soulagé beaucoup qu'il trouve cette idée super. Ça m'a
Chouette.
conforté. À un moment, écrire un livre, c'est plein de périodes de doute. On est tout
Oui,
le
puis
temps
ça c'est
dedans.
un lien supplémentaire vraiment à l'enfant pour le coup. Parce que tu parles plus de chien que d'enfant dans ton livre,
Ah oui,
forcément.
bien sûr, mon propos, c'est le chien. Mon propos, bien sûr, c'est le chien. Et du coup, lui, il m'a facilité le travail et il a contacté, donc, il y a une dizaine d'écoles, des classes. Ce sont des enfants entre 6 et 8 ans. Du coup, c'est lui qui a chapeauté le projet, qui a été en contact avec les instituteurs, enfin, les institutrices, les enfants ont donc mis en image, on leur a demandé de dessiner. Alors on a eu une pléthore de dessins, il a fallu faire un choix, c'était très dur de choisir les dessins, mais voilà comment ça s'est passé. Et alors là, j'interviens dans les écoles pour leur présenter le livre, pas plus tard que jeudi
Ah oui,
dernier.
super.
Ils sont super émus de voir leur dessin et sont fiers.
C'est sûr, oui, c'est sûr. Ah, c'est chouette. Ok, donc en fait, vous verrez, y a combien d'illustrations d'enfants dans le livre? Tu sais ou pas?
Ah, il y en a beaucoup. Oh là, non,
Ouais,
je
tu
ne
sais pas,
saurais
t'as
pas
pas le.
te.
Ouais, ok.
Non.
Donc voilà, y a pas mal d'illustrations en fonction des thèmes que Audrey aborde dans le livre qui sont très sympas. Et qui sont du coup en lien avec le contenu aussi. En fait, quand on a préparé le live, on s'est contacté par téléphone et je l'avais pas encore lu le livre. Et voilà, un enfant turbulent qui ne s'est pas assez promené cet après-midi, n'est-ce pas? Je vais le foutre au coin, ça va pas faire deux. naturel chez nous. Voilà, donc on a discuté tout ça. Moi, j'avais pas encore lu le livre, donc du coup, voilà, on a un petit peu parlé du sujet, mais je savais pas comment on allait articuler le live. J'ai pris le temps de lire le livre, bien sûr, et ensuite j'ai noté des mots dans ce livre qui m'ont, moi, qui m'ont, qui sont sortis du livre en fait. Et j'ai proposé à Audrey qu'on parte sur ces mots-là et que elle me dise à quoi ça lui fait penser en rapport avec le livre. Et c'était OK pour elle. Donc on va partir là-dessus. Voilà, avec des mots que j'ai pris du bouquin, qui pour moi sont un peu phares et des thèmes que Audrey aborde dans le livre qui sont redondants et un peu phares. Il y en a sûrement d'autres que j'ai pas mis, que vous aurez en le lisant, certainement une autre vision que la mienne, bien sûr. Donc le premier mot, il y en a deux en fait, c'est obéissance et contrôle.
Alors, oui, parce que donc ça fait partie d'un chapitre dans ce livre, parce que on est quand même dans une ère où encore souvent, trop souvent, un chien éduqué et un enfant éduqué, c'est un chien qui obéit, qui est sous le contrôle de son gardien ou de sa gardienne, comme on pense trop souvent qu'un enfant qui ne bouge pas, qui ne s'exprime pas, est un enfant sage et qui est bien éduqué, qui ne prend pas la parole quand les adultes parlent. Voilà, et avec le chien, bah, même en positif, l'obéissance pour moi n'est pas souhaitable. Pour moi, c'est du contrôle. C'est ce que j'explique donc dans le livre. Ça n'est pas parce qu'on a des récompenses dans les mains qu'on est légitime à tout passer sous le coup de l'obéissance en positif. Quand on me dit oui, mais c'est de l'obéissance en positif, c'est pas possible. Faire obéir de manière positive. Bon, j'y crois pas trop et on intervient beaucoup trop sur les comportements sans se soucier pas assez de ce que le chien ressent, comme s'il était un peu façonnable sous prétexte qu'on a des croquettes, une balle. On va pouvoir faire au chien tout ce qu'on veut et l'aborder vraiment par le prisme du comportement. C'est le béhaviorisme pur et dur, hein, c'est-à-dire j'ai bien compris comment on fait, donc je vais bien façonner mon chien. Et je vais bien l'amener là où j'ai envie de l'amener, mais on passe à côté, et ça n'est pas parce qu'on lui parle gentiment, ça n'est pas parce qu'on a des croquettes ou une balle dans les mains que ça rend la chose plus éthique, parce qu'on passe à côté quand même de toute la sphère d'initiative du chien, de qui il est, et puis se demander déjà est-ce qu'il a envie qu'on lui fasse faire ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, un chien quand il a 5 mois, si on a des croquettes dans les mains, va faire un peu tout ce qu'on lui demande. Hein. Et si c'est pas le cas, on va tout de suite s'inquiéter. Oh là là, il obéit pas. Oh là là, je suis tombée sur un têtu. Alors que bah, moi, je trouve que si à 5 mois, on veut pas des croquettes et qu'on veut pas obéir, bah, je trouve qu'on a raison. Et voilà, et du coup.
Tu veux dire que c'est un peu l'obéissance, ça pourrait éteindre un peu la personnalité de l'individu?
Ah ben, je pense que ça éteint. Je pense que ça éteint et qu'on passe à côté de la relation qu'on pourrait avoir avec le chien. Oui, ça éteint. Et puis, on ne peut pas vouloir d'un côté que le chien. On parle beaucoup d'autocontrôle. Contrôle et autocontrôle, c'est antinomique. On ne peut pas vouloir d'un chien qu'il sache se contrôler, prendre de bonnes décisions, qu'il soit plein d'initiatives. Mais l'avoir éduqué sous le coup de l'obéissance, c'est absolument impossible. C'est contradictoire. On ne peut pas demander au chien de faire le grand écart. À partir du moment où on élève un chien dans l'obéissance, on lui enlève la sphère d'initiative. On lui enlève en plus beaucoup de ce qui relève de l'analyse, parce que le chien. Enfin, on va avoir besoin de tout lui dire. En gros, c'est très fatigant. Et au bout d'un moment. Ça ne va plus marcher, hein. C'est quelque chose qui marche à court terme, qui est très rapide, on obtient vite des résultats, mais sur le long terme, c'est compliqué, ce n'est pas pérenne. Et alors là, c'est une voie quand même pour la réactivité, hein, parce que, on ne travaille pas avec les émotions, hein. Avec l'obéissance, on ne travaille pas avec les émotions, on travaille avec le comportement uniquement et pas la sphère subjective, du chien. Et du coup, on a quand même tendance à penser, enfin à confondre extinction et éducation. C'est-à-dire que si le chien bouge pas, s'il la voit pas, s'il ne fait pas, il est éduqué. Et l'enfant, s'il parle pas, si l'enfant ne bouge pas, si l'enfant se tait, quand les adultes parlent, si les enfants, il est éduqué. Moi, je les trouve éteints. Voilà, donc après, on peut en discuter longtemps. Il y a des gens qui ne tolèrent pas, par exemple, qu'un enfant prenne la parole ou qu'un chien Mais après, évidemment, il y a un cadre dans tout ça et je pense qu'on va
Oui,
en parler parce
c'est
que le but n'est pas
imprévu.
non plus de les laisser
Mais
faire tout ce
oui.
qu'ils veulent,
Mais de
hein,
toute
génétiquement.
façon, oui, c'est quelque chose que dont tu parles dans le livre aussi. Enfin, rester là, voilà, c'est justement pas j'avais envie de le mettre ce mot-là, mais je l'ai pas mis parce qu'après j'avais peur que ça fasse trop. Mais c'était aussi laxisme. Tu parles pas de laxisme non plus, mais c'est quelque chose qu'on va voir un tout petit peu après et qui est bien expliqué dans le livre. C'est qu'elle dit pas. En fait, elle n'est pas en train de dire que on laisse tout faire aux chiens, en fait,
Non,
justement. C'est
sûrement
justement
pas.
pas ça. Mais là, tu parles de comment, du coup, on peut mêler de l'éducation. On peut avoir un chien qui est socialement OK dans notre quotidien d'humain sans forcément avoir d'obéissance.
Oui. Ah oui, bah écoutez, écoute, j'ai écouté toi et puis ceux qui m'écoutent, je ne sais pas que.
Je
Mais.
pourrais poser des questions après, hein, pour le moment, je l'ai pas dit.
En tout cas,
Je
c'est comme ça
voudrais
que
tout dérouler et après vous pourrez poser des questions si vous souhaitez.
c'est comme ça que je travaille avec mes clients et ça se passe très bien avec les chiens de mes clients et surtout avec les chiens qui ont des difficultés émotionnelles. Ce n'est certainement pas avec l'obéissance qu'on apaise un chien agressif. Certainement pas, c'est ridicule. Et si ça ne marche pas avec un chien adulte, imaginez. Enfin, si ça marche avec un chien adulte, je veux dire, si on arrive à apaiser un chien adulte agressif en le laissant tranquille, imaginez où est-ce qu'on peut amener un chiot qui n'a jamais été suractivé par des demandes, les ordres de base, assis couché, dès que le chien arrive, assis couché, donne la patte. Mais on en fait quoi après de ça? Ça n'a aucun intérêt. Et alors, du coup, moi, je compare un peu, là, pour le coup, notre attitude par rapport à l'enfant et notre attitude par rapport au chien. Autant avec l'enfant, on pêche par adultisme, hein, en dominant l'enfant par adultisme, hein. Et puis avec le chien, bah, c'est de la dominance. On est au-dessus du chien, on va lui donner des ordres. Un chien, ça obéit.
Une autre notion qui est la suite un petit peu de tout ce chapitre autour de la remise en cause de l'obéissance et du contrôle sur le chien. Là, elle a résumé, Audrey a résumé en 10 minutes, ce qui prend quand même un bon chapitre. Hein, donc évidemment, elle aborde d'autres notions, exemples, etc. Ce qui vient ensuite, c'est un mot que j'adore, moi, c'est animalité.
Oui, alors moi aussi. Moi, j'aime l'animalité. J'aime cette notion dont on peut parler pendant des jours et des jours. C'est un sujet philosophique, mais en plus qui est très ancré dans le réel, qui est très actuel. L'animalité, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout intérêt déjà, nous, en tant qu'humains, à aller rechercher, à aller reprendre notre animalité. Laisser l'enfant et les enfants être des animaux aussi. On est des animaux, rappelez-vous de ça. Mais ça pose la question. Enfin, je pose cette question, c'est aimer les animaux et aimer l'animalité, c'est pas forcément la même chose. Aimer l'animalité, ça ne va jamais exclure l'animal, mais malheureusement, aimer les animaux exclut trop souvent l'animalité. Alors, on va pas on va dire, on fait contre-aventure, on fait de la philosophie, mais c'est, enfin, ce que je veux dire, c'est que. Tant qu'on ne reconnaîtra pas chez le chien, je prends le chien, hein, mais on peut l'appliquer à tous les animaux, tant qu'on ne reconnaîtra pas chez le chien ce qui fait de lui une espèce à part entière et différente de la nôtre, et tant qu'on ne préservera pas ça profondément, on ne pourra pas dire qu'on aime l'animalité. L'animalité dérange la plupart du temps.
Alors, donne des exemples d'animalité du chien, par exemple. Ce qui fait qu'il est un
Ben, tous
chien,
ces comportements
qui
qui
peut
lui
déranger les humains.
sont propres, cette envie de se rouler dans la boue, de marcher dans les flaques, rentre si tu veux, rentre. Cette envie de marcher dans les flaques, ce besoin de bouffer de la terre, le fait de ne pas avoir de gêne à être sale, les comportements, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui dérange beaucoup de gens, ce côté sale chez le chien, quand on revient, le chien a marché dans la boue, les gens, je vois des fois des personnes qui sont gênées par ça, mais l'animalité aussi du chien en priorité parce que c'est de lui qu'on parle, c'est son alimentation aussi. Elle est très particulière, ce besoin de mastication, de manger des os, de les broyer, de manger de la viande crue. On va tout de suite chercher les conditions d'hygiène, les questions sanitaires. Et on va parler de propreté, mais il n'y a pas de microbiote, il n'y a pas d'immunité sans saleté. On les aseptise, il n'y a pas l'environnement aseptisé, la rusticité, l'animalité, tout ça, vont vite vous faire passer pour des personnes qui sont sales, le fait de ne pas forcément être dérangé. Moi, je ne suis pas quelqu'un, par exemple, qui va être une obsédée des gamelles à nettoyer 3 fois les gamelles d'eau par jour. La gamelle d'eau de ma chienne, elle est pleine d'anticorps. Alors, elles sont vidées, rincées, mais pas parce que c'est ce côté-là. Et c'est valable aussi pour les enfants, d'arrêter de les laver 3 fois par jour, d'arrêter. Vous voyez, c'est tout ce côté-là de rusticité qui nous protège, en fait. Qui nous protège des maladies, qui protège le chien de plein de pathologies. Et qui nous ramène à la nature, qui nous ramène au bon sens rustique, et puis tous les comportements propres aux chiens, hein, le chien qui se lèche, le chien qui se lèche les parties génitales, le chien, les comportements, il y en a plein d'autres.
Pas passer 10 minutes sur un caca dégueulasse.
Voilà, de dire que non, mais il doit pas tout manger, il mange ce qu'il trouve, mais aussi avec la zoopharmacognosie, on voit bien, si on regarde un petit peu, que le chien ne mange pas n'importe quoi. Alors, hormis ceux qui font du pica, hein, qui mangent des matières plastiques, qui mangent des matières... Mais si on regarde un petit peu les chiens qui vont manger de la terre, les chiens qui vont choisir certaines herbes, tout de suite, dès qu'un chien mange de l'herbe, oh là là, il mange de l'herbe, il digère mal. Mais non, non, pas forcément, non. Le chien mange de l'herbe, le chien a toujours mangé de l'herbe. D'ailleurs, on appelle cette herbe le chien-dent. C'est qu'il y a une raison, c'est que le chien affectionne cette herbe en particulier. On ne les laisse pas assez faire, on ne les observe pas suffisamment. Moi, je vois régulièrement ma chienne faire des choses qui me fascinent. L'hiver dernier, j'ai posté une vidéo d'elle. Là où on habite sur l'étang, il y a des noyers, elle choisit les noix. Elle choisit les noix, je vois bien qu'elle choisit les noix qu'elle mange, qu'elle casse. Elle ne mange pas toutes les noix, elle choisit les noix sèches, les noix propres. Elle sait, comment elle le sait, mais est-ce que c'est de l'instinct? Est-ce que c'est son odorat qui lui indique? Mais c'est pareil avec les tortues de terre. Ce sont les meilleurs botanistes qui soient. Moi, j'ai une tortue de terre. Si il y a de l'euphorbe dans son enclos, elle est en liberté. Elle ne mangera jamais des plantes toxiques et pourtant, je ne les lui retire pas. Elle ne les mange pas. Si j'étais là à tout désherber, peut-être que je vais lui faire perdre quelque chose. Peut-être que je vais lui faire perdre cette connaissance qu'elle a de manière instinctive. Bon, et alors, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, parce qu'on va crier à l'anthropomorphisme à toutes les sauces, dire que le chien n'a pas de sentiments, qu'il n'a pas les mêmes émotions, enfin, qu'il a des émotions, mais pas toutes, hein, qu'il aurait des proto-émotions. Et ces mêmes personnes qui vont crier à l'anthropomorphisme, dès qu'on va dire que le chien a des sentiments ou du ressentiment, ces mêmes personnes ne vont pas connaître l'éthologie canine. Mais si tu ne connais pas l'éthologie canine, il n'y a pas à me dire à moi, après, que je fais de l'anthropomorphisme quand je dis que ma chienne peut éprouver du ressentiment, peut être pendant plusieurs jours dans une ambiance affective particulière parce qu'il s'est passé quelque chose, qu'on ne vienne pas me dire que ça n'existe pas chez le chien sous le coup de l'anthropomorphisme. Quand on ne connaît pas l'éthologie et qu'on ne comprend pas qu'un chien a besoin de faire tout ce que je viens de parler, de dire. Il y a une espèce de contradiction. Là, l'anthropomorphisme, c'est quand ça nous arrange un petit peu quand même. Et du coup...
Oui, mais après, la comparaison, ce que tu viens d'évoquer avec le chien, effectivement, avec les enfants, où il ne faut pas toucher le bébé quand il est petit, il ne faut pas que ce soit que les parents... Faut pas qu'il y ait des étrangers qui touchent le bébé quand il est tout petit. Moi, c'est des choses que j'ai pu entendre. Il faut pas qu'il soit dans la terre. Faut pas qu'il mette des trucs dans la bouche. Enfin, c'est vrai qu'on est sur des comportements potentiellement équivalents. Après, tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais
Non,
c'est
ah
quelque
non, bien
chose.
sûr.
C'est quelque chose qu'on peut entendre et du coup qui. Et puis après, il y a aussi le côté chien, par exemple, avec le chien qui va chasser, quoi. Et qui va. Moi, j'ai déjà été en balade avec des chiens qui ont pu tuer des animaux et dont les personnes ont, enfin, et les personnes ont été extrêmement choquées du
Ah
comportement de leur chien,
oui.
alors qu'en fait, à la base, c'est quand même leur job, c'est pour ça qu'ils ont été créés, on va dire, par l'homme, en tout cas, voilà, manipulés, etc. Donc, alors que voilà, ça peut être choquant d'un point de vue humain, mais eux, ils n'ont pas de moralité, en fait, ils vont pas
Non,
dire
dans la
c'est bien, c'est
prédation,
pas
il n'y a
bien.
aucune moralité. Ça, c'est
Oui, il n'y
sûr
a pas de
que.
notion de bien ou de mal, à
Ah
tuer une
non, dans
petite
la
souris
prédation,
ou voilà.
quelque chose de très froid, la prédation, c'est quelque chose d'instinctif, qui va chercher le chien dans tout ce qu'il a de plus ancien. Certains chiens ne le sont pas du tout, d'autres le sont beaucoup. La vraie prédation au sens éthologique du terme, c'est-à-dire tuer la proie pour la manger. Bon, il se trouve que moi, la mienne, elle est comme ça. Et effectivement, ça choque certaines personnes. Mais on oublie que c'est un canidé et que le canidé est un prédateur. Il se trouve que le chien domestique, avec la sélection, parfois ne l'est pas du tout. Tant mieux pour les personnes qui ont un chien qui n'est pas du tout prédateur. Mais voilà, l'animalité, on a tout à gagner en la respectant un petit peu plus chez le chien et en essayant de la retrouver nous-mêmes. C'est un retour aux sources qui fait beaucoup de bien et voilà. En gros, parce qu'après, on
Ça
pourra
veut
parler pendant
pas
des heures.
dire qu'on laisse son chien partir derrière tous les chevreuils, ça veut juste
Ah
dire
non,
qu'on
non, non,
accepte
non.
cette partie de lui
Oui,
sans
voilà.
forcément le laisser y aller, hein.
Non, non,
Je mets
non,
de
je
la
ne laisse
nuance,
pas ma
voilà.
chienne chasser.
Voilà. Le mot suivant, c'est étiquette. Vas-y.
T'as choisi les
Plus
mots.
fière de toi. Non, étiquette, je me rappelle. Heureusement, j'ai repris il n'y a pas longtemps pour me rappeler de tout. C'était un peu les étiquettes qu'on pouvait mettre sur les chiens, sur les personnalités de chiens,
Oui, oui, bah.
même des étiquettes négatives.
Oui, bah alors,
Le chien est résumé parce qu'il est réactif. Donc il dirait
voilà.
juste lui, ah bah lui, il est réactif. C'est tout ce qu'on va retenir du chien, quoi.
C'est ça. Bah, c'est-à-dire que je me suis souvent trouvée dans la situation de défendre, par exemple, la bonne santé mentale du chien. En ce moment, moi, je parlais de ce qui est actuel. Mon bouquin, vient de sortir, enfin, va sortir. Enfin, du coup, toi, tu l'as déjà, mais. La bonne santé mentale du chien. Aujourd'hui, on est dans une ère qui pathologise absolument tout. On veut absolument chercher un trouble qui expliquerait tout. Mais non. En fait, et je me retrouve souvent à dire aux gens, mais non, mais c'est non, c'est normal, il va bien. Enfin, je défends la santé mentale du chien, moi, qui suis du coup comportementaliste et. Et je me dis, mais c'est pas un trouble du comportement, ça. C'est pas. Et on a tendance à trouver ça aussi avec les enfants. Il faut quand même le dire, que c'est comme si, en fait, comme si on voulait trouver un trouble. Mais même chez nous, il y a même des adultes qui font ça, qui pourraient tout expliquer puis nous dédouaner. Et chez le chien, je trouve que depuis, allez, bien 3 ans, j'ai régulièrement des personnes en études qui pathologisent les émotions, qui pathologisent le fonctionnement du chien. Chercher un trouble, comment dire, c'est comme si on voulait avant tout savoir ce que le chien a avant de comprendre qui il est. C'est comme tous ces parents qui vont très vite aller dire que leur enfant est hyperactif. Ou à l'école, on va vite estampiller un enfant hyperactif, comme on va estampiller, là en ce moment, c'est pas parce qu'un chien a des troubles de l'attention et qu'il est impulsif qu'il a un TDAH. Et on est dans une ère comme ça, où je trouve qu'on va trop vite chercher des troubles avec des autodiagnostics. ou avec des diagnostics en ligne, avec on lit des choses quand on ne demande pas à ChatGPT. Et du coup, on se retrouve avec des situations parfois qui sont ubuesques, où bah, on oublie que c'est l'ajustement environnemental qui va aider. Et alors là, pour le coup, surtout si le chien est neurodivergent, c'est l'ajustement environnemental, et c'est valable aussi pour les enfants. Sans ajustement environnemental, et la recherche le prouve, les études le montrent, que d'ailleurs c'est tout le débat de la société, c'est que la société doit s'y mettre hein, pour aider ses enfants, ses gens, ses chiens, qui sont... mais ça n'est pas une pathologie, c'est un développement naturel, humain et du cerveau, c'est une évolution, mais ça n'est pas... Et il y a un excellent article que je vous invite à lire, qui est d'ailleurs dans le livre, hein, dans la documentation, hein, d'une journaliste je vais retrouver son nom, qui s'appelle Elena Mellud, son article s'appelle « Une différence pathologisée sous contrainte sociale », et elle parle donc de toutes ces études, de cette quantité d'études qui montrent que l'amélioration des conditions environnementales chez l'enfant et chez les adultes vont aider dans les difficultés, mais de ne pas étiqueter aussi vite et de ne pas ranger dans des cases comme si, en fait, parce que je trouve que c'est dangereux et qu'on est dans ça aujourd'hui avec les gens et l'enfant, avec les humains et l'enfant, c'est que la société se dédouane. Comme si elle disait, mais c'est pas, c'est vous qui êtes, vous n'êtes pas normal. Et nous, c'est pas notre problème. Et ça n'est pas vrai aujourd'hui. Alors on a cette tendance d'un côté à très vite aller en besogne et à étiqueter tout de suite, pathologiser des comportements qui sont en fait normaux et qui sont liés à un dysfonctionnement environnemental et parfois à un problème relationnel. Et du coup, cette tendance-là, qui est un peu comme une dérive pour moi, va quand même... Je trouve pas le mot, mais d'évaluer les personnes qui ont véritablement un chien qui est dans la sphère autistique, par exemple. C'est vraiment, c'est je trouve qu'on est beaucoup là, dans tout ça aujourd'hui, de mettre des étiquettes comme ça, hyperactif, TDA, TDAH, agressif, alors pas forcément dans la neurodivergence, mais réactif, agressif, mais il n'est pas agressif, il communique comme un chien en fait, et que quand ça ne lui plaît pas, bah, il intensifie ses comportements, et à un moment donné, ouais, il peut montrer les crocs, mais peut-être qu'avant il a fait des choses. Et qu'aujourd'hui, dire de lui qu'il est agressif, ben c'est peut-être le stigmatiser et augmenter aussi ce risque d'agressivité. Donc, bon, on est, c'est, on, je suis, j'ai peur qu'on réduise les êtres, quels qu'ils soient, à leurs faiblesses, parce que souvent, les faiblesses sont aussi des points forts. Donc, les étiquettes, moi, je les ai subies dans mon enfance, dans ma vie d'adolescente, dans ma vie de jeune adulte. Ma fille a subi aussi les étiquettes à l'école. Ça va trop vite. Ça n'est souvent fondé sur rien. Et quand c'est fondé, quand c'est sérieusement diagnostiqué, c'est comme si on disait... La société ne s'en mêle pas. La société ne. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est développé dans mon livre, hein, parce que c'est quelque chose que moi, je vis avec le chien. Par exemple, j'en parle, hein, j'ai eu à suivre pendant presque 2 ans une chienne qui a été donc diagnostiquée Asperger, et le conseil avait été donné de ne plus la sortir de chez elle. Parce que elle ne savait pas communiquer, soi-disant, tous ses comportements étaient justifiés par cette étiquette Asperger. Sa gardienne, tout en ayant accueilli le diagnostic d'Asperger, n'a pas accueilli la mesure, n'a pas accueilli les conseils qui ont été donnés, et est venue me voir avec cette chienne. avec un gros travail en gestion environnementale, avec une bonne compréhension de la sphère subjective, une bonne compréhension de qui est cette chienne, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, de ses besoins, avec un bon relationnel avec la gardienne, en préservant, en gardant dans un coin de notre tête cette neurodivergence, mais en ajustant l'environnement, cette chienne a fait des progrès incroyables et elle vit aujourd'hui à peu près normalement avec sa gardienne qui la comprend beaucoup mieux, qui sait ce qu'elle doit faire, mais bien sûr que cette chienne communique, bien sûr que parfois elle communique moins, mais il faut pouvoir voir tout ça. Mais en tout cas, le conseil de dire non, non, mais elle est neurodivergente, elle est Asperger, et du coup, on la met de côté et puis elle reste chez elle parce que de toute façon, bah pour moi, ça, c'est aussi ce qu'on fait avec certains enfants et c'est inadmissible.
On enchaîne avec la maltraitance. Là, j'avais mis violence, mais tu évoques la maltraitance des chiens comme la maltraitance des enfants. En tout cas, tu la mets en relief dans un chapitre.
Oui, alors c'est pas moi qui, enfin, je pars du colloque qui s'est organisé en 2023 sous le titre "Qui bat son chien, bat les siens". C'est un titre qui a choqué beaucoup. C'est un colloque qui s'était organisé à Paris pour rendre compte de la violence à l'encontre des animaux comme un baromètre potentiel de la violence familiale. Ce colloque a fait des petits, hein, et parce que le propos était de dire qu'il n'existe qu'une seule et même violence. Bon, nous, on est en retard. L'Irlande, l'Écosse, l'Australie, le Canada, l'Autriche sont bien en avance par rapport à nous depuis longtemps. Ils ont bien compris que le chien, les animaux sont un baromètre de la violence familiale. Au moment où j'écrivais mon livre, la défense de l'animal, qui est une confédération nationale qui regroupe 200, 250 ou 280, je ne sais plus, associations et refuges, ont signé des protocoles de coopération avec le parquet général de la cour d'appel de Toulouse pour justement renforcer la lutte contre les violences familiales en reprenant donc ce titre de ce colloque, une seule et même violence, pour faire en sorte que le chien domestique ou l'animal domestique ou enfin le chat, l'animal, ne soit plus un objet de chantage de la part du conjoint violent pour faire en sorte que la femme victime reste à la maison. Parce qu'on oublie souvent qu'une fois que les enfants ont été mis en sécurité ou s'il n'y a pas d'enfants, l'une des raisons pour lesquelles les femmes violentées restent chez elles, c'est la présence de leur animal, qu'elles ne veulent pas laisser parce que, à cause du chantage, à cause des menaces de
Du risque de
représailles.
mort, en fait, hein,
De
de...
représailles sur le chien. Et alors, le protocole permet l'accueil urgent donc des animaux du foyer pour qu'ils ne soient plus l'objet de chantage. Ils vont être recueillis pour que la femme puisse quitter le foyer. Donc ça, la cour d'appel de Toulouse, pour le coup, là, c'est vraiment visionnaire, hein. C'est précurseur en France. Le 24 septembre 2025, donc j'ai les dates, j'ai quand même noté quelques dates parce que tout retenir, c'est le procureur général d'Aix-en-Provence, donc qui s'appelle Franck Rastoul, qui a déclaré qui bat son chien bat sa femme, qui bat sa femme bat son chien. Il demande au parquet dépendant de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de mener des enquêtes sur les violences domestiques pour répertorier les foyers où les enfants et les femmes sont battus. Pour partir des animaux, ce que font déjà depuis longtemps le Canada, l'Australie, les pays que j'ai cités tout à l'heure. Donc ça, c'est développé dans le livre de manière bien plus précise, hein, que là, parce que là, je bégaye un peu et je fais appel à ma mémoire, mais tout est parti de ce colloque de 2023 qui a mis au même niveau la violence de l'enfant et la violence animale, en disant que le chien est un baromètre et que là où il y a maltraitance animale, il faut aller investiguer dans le foyer parce que très souvent, pas toujours, mais très souvent, les enfants sont violentés. Ou si ce n'est pas les enfants, c'est la femme ou les deux.
Alors, on enchaîne avec l'éducation positive et cadre éducatif. Donc là, c'est un peu le... Au début du livre, tu parles de l'obéissance et du contrôle sur le chien. Et tu reviens là sur ce chapitre-là, tu parles
C'est bon,
de l'importance du cadre.
j'ai. Oui, l'importance du cadre. Alors, parce que on entend souvent que l'éducation positive est laxiste. Mais ce laxisme n'est pas lié à l'éducation positive elle-même, parce que dans l'éducation positive, il y a éducation. Ce laxisme, il est lié à la mauvaise compréhension par certains gardiens et certains professionnels de ce que c'est l'éducation positive. Qui ne dit mot consent? Il n'est pas possible d'ignorer des comportements. Ignorer un comportement, laisser un chien adopter un comportement à répétition, c'est y consentir. Et le chien va se construire avec ce comportement qu'on ignore. Ça n'est pas possible. Et c'est la voie ouverte vers plein de problèmes. L'éducation positive, ça n'est pas ça. On est aujourd'hui tombé dans le paroxysme inverse du contrôle où le chien n'avait plus le droit de respirer, où c'était l'obéissance à toutes les sauces, la dominance, la hiérarchie. On est arrivé dans l'inverse, complètement l'inverse, où le chien est en roue libre, ses comportements désagréables sont ignorés, on regarde ailleurs. Le chien a le droit de tout et il fait ce qu'il veut, peu importe le dérangement qu'il va occasionner sous prétexte d'éducation bienveillante. Mais c'est pas du tout bienveillant, c'est pas du tout. Déjà parce que si un chien acquiert la conviction que ce qu'il peut faire est, enfin qu'il peut faire tout ce qu'il veut, en gros, il va aussi croire que ce qu'il fait est complètement égal à son gardien. Ça lui est égal. Au niveau relationnel, c'est pas top et ce n'est pas bienveillant. Ça, pour moi, c'est de l'éducation ultra permissive. Ça n'a rien à voir avec l'éducation positive. L'éducation positive, ultra permissive, pour moi, c'est l'absence d'éducation, tout simplement. C'est le dédouanement total, sous couvert de bienveillance, à toutes les sauces, on laisse faire. On ne cadre plus, on ne sécurise plus, on laisse des jeunes chiens de 8 mois en liberté totale, se retrouver face à des chiens qui sont attachés, on laisse les chiens envahir la zone personnelle des gens, et c'est très mauvais, hein, c'est très mauvais pour l'enfant, c'est très mauvais pour le chien. Du côté de l'enfant, pour le coup, il faut lire Diane Bomrind, hein, qui parle des styles parentaux. Hein, l'éducation ultra permissive est une éducation qui, à l'âge adulte, crée des dépressions, une difficulté à s'ancrer dans le réel, dans la vie adulte, tout simplement parce qu'on est trop nostalgique de cette période où tout nous était acquis, où rien ne nous était refusé, où on nous laissait tout faire et où on était toujours adoubé. Mais un jour arrive l'âge adulte. Et on se retrouve en face de personnes qui n'ont pas du tout l'intention de se comporter comme nos parents. Et là, c'est difficile. Et ça crée des dépressions. Chez le chien, c'est pareil. Ça ne durera pas. C'est peut-être sympa à 8, 9 mois, 10 mois, mais quand le chien commence à entrer dans l'âge adulte et qu'il se retrouve face à des adultes qui ont été éduqués autrement, là, c'est dur parce qu'il va devoir faire face au refus de l'autre. Il va devoir faire face au désintérêt aussi de l'autre. Et ça n'est pas possible. Parce qu'on lui a fait croire qu'il était très intéressant tout le temps, on lui a fait croire que toutes ses demandes d'interaction doivent être exaucées, on lui fait croire qu'il a le droit de tout, il prend des décisions sur tout, il fait ce qu'il veut, et on croit que ça, c'est l'éducation positive. Moi, j'entends parfois ça, que le chien, il a besoin d'être en liberté, il faut les laisser se débrouiller. Mais quel est votre rôle dans tout ça, finalement, du coup? C'est quoi votre rôle à vous en tant que gardien ou gardienne? Si votre chien de 8 mois est en liberté comme ça et que vous arrivez, vous êtes 50 mètres derrière et que vous ne voyez même pas ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça? Et non, ça n'est pas l'éducation positive, non. L'éducation positive, elle met des limites. Elle met des limites. Apprendre le respect de l'autre, apprendre le désintérêt de l'autre, apprendre la déception d'un refus, Ça fait partie de l'éducation. Apprendre la frustration, ça fait partie de l'éducation positive aussi. On va s'y prendre autrement, ça c'est clair. Mais l'objectif est le même. C'est que le chien tolère la frustration parce qu'elle fait partie de la vie, comme l'enfant aura besoin d'apprendre la frustration d'un échec, la frustration d'un refus, d'un désintérêt, la frustration d'une impossibilité tout simplement, environnementale, un empêchement. Il est souhaitable quand même que les chiens et les enfants soient éduqués dans ce sens-là, de manière positive, de manière bienveillante, avec le temps, avec la patience, avec... Mais poser un cadre éducatif, c'est garantir la sécurisation affective, la sécurisation personnelle, la stabilité relationnelle, mais surtout la stabilité émotionnelle à l'âge adulte. Il n'est pas difficile pour moi, mais je pense aussi pour plein de gens, de comprendre assez vite quel enfant, l'adulte que l'on a en face de soi a été et quelle éducation il a reçue. Ça n'est pas compliqué. Les travers sont les mêmes pour le chien. Je les vois tous les jours, moi qui suis quand même souvent avec des chiens qui ont de grosses difficultés émotionnelles, mais c'est à travers la relation et à travers l'investigation, l'analyse systémique, et puis tout le mindset du chien, de comprendre sa subjectivité, qu'est-ce qui se trame dans la relation, qu'est-ce qu'on lui a fait croire pour qu'il devienne comme ça, qu'est-ce qu'on lui a fait croire. Et à l'âge adulte, c'est difficile. Quand on nous a fait croire quelque chose, mais on prend conscience qu'en fait, bah, ça ne va plus être possible. On se retrouve très très frustré parce que ce qui était possible avant et qu'on nous autorisait parce qu'on était jeune, on sait très bien que les chiens entre eux vont tolérer certaines choses des chiens jeunes, mais terminés après. Mais c'est comme nous en fait. On va tolérer de la part d'un ado, même si ça n'est pas le nôtre. On va tolérer, on va fermer les yeux, on va prendre sur nous, on va pas apprécier, mais à l'âge adulte, on ne laissera jamais un adulte se comporter comme ça. Jamais. Et pour les chiens, c'est pareil. Donc le cadre éducatif, il est important, et le cadre éducatif, enfin l'éducation positive, n'exclut pas le cadre éducatif. En aucun cas. Et alors là, je veux bien qu'on vienne m'apporter les arguments contraires.
La notion suivante, c'est une expression que tu utilises, ça fait même le titre d'un chapitre, je crois, qui s'appelle la veille.
Oui, la veille, c'est cette. Moi, j'appelle ça comme ça, mais ça n'est pas un terme consacré du tout. Hein. C'est moi qui j'aime bien mettre des mots. C'est une présence qui rassurante. C'est une guidance ancrée et assumée d'un gardien ou d'une gardienne qui s'inscrit dans la vie de son chien comme un accompagnant fiable. Là, ancré. Et le chien le sait, le chien le comprend vite. On peut dire la veille, on peut dire la guidance, on peut dire le leadership. Moi, j'ai pas de problème à parler de leadership. Moi, quand je parle de leadership, je sais de quoi je parle, hein. Je ne parle pas de dominance, je ne parle pas de violence, de brutalité, d'autoritarisme. Quand je parle de leadership, je sais de quoi je parle. Cette guidance nécessaire au chien domestique, tellement nécessaire et qui lui manque tellement. De plus en plus, le chien domestique manque de guidance, de cette veille, cette attitude attentive qui indique au chien, je suis là. Je vois ce que tu fais, mais aussi, je suis là pour toi. Je suis là pour te rassurer. Je serai toujours là pour te montrer la voie, pour voir si tu prends la bonne, pour t'accompagner, pour te permettre de prendre des décisions, parce que si je te laisse pas prendre des décisions, il n'y a pas de danger que tu en prennes des bonnes. T'en prendras peut-être des mauvaises, mais je serai là. Comme avec un ado, je te laisse faire, on en parle, tu fais tes choix, et puis, mais je suis là. Et c'est toujours ça, c'est cette veille, le fait de sentir qu'on n'est pas seul, ça c'est l'éducation positive, c'est ça, c'est cette veille qui n'existe pas suffisamment parce elle s'oppose à un laxisme décomplexé qui croit que c'est ça l'éducation positive. Et je regrette ça parce que je me dis qu'est-ce qu'on a mal expliqué? Qu'est-ce qu'on a mal expliqué pour que les gens croient ça, croient que c'est ça qu'il faut faire avec le chien. C'est donc créer un espace de sécurité psychologique pour le chien et de sécurité psychologique et de sécurité environnementale, où il va pouvoir se développer sereinement, en confiance, tout en sachant qu'on est là. Hein, moi j'aime bien avec les jeunes chiens quand on est dehors ou avec les chiots quand je vois que il y a une réflexion, une analyse, une observation, un regard au gardien, le gardien qui sourit et le chien y va, une espèce de et on n'a pas besoin de faire plus que ça, une espèce de confiance qui se crée entre eux et qu'on est là pour les amener. Enfin, on est là pour les. Je considère qu'on est là pour ça, pour les amener à ça. Sinon, c'est du blabla, c'est du coaching qui se tâte le pouls. Enfin, moi, je vais faire obéir un chien, ça ne m'intéresse pas. Et donc, voilà, ce sont des repères, en gros, des repères, des règles justes et justifiées. Parfois, que le chien comprend très bien parce qu'elles sont ancrées dans l'environnement, elles ont du sens. Hein, tu vois très bien de quoi je parle. Tu vois très bien, le chien comprend très bien les règles quand elles sont justes et justifiées. Par contre, donner des règles pour donner des règles, le chien n'est pas idiot, il ne les appliquera pas.
En fait, ça me fait penser forcément dans ce type de notion, ça amène un peu à l'introspection quand même. Et de toute façon, nos chiens nous amènent, enfin moi je trouve peut-être trop, mais à se poser des questions sur nous-mêmes, parce que pour être un gardien fiable, faut être, comme tu dis, ancré, ben faut l'être réellement. En fait, je veux dire, tu fais pas semblant de l'être pour le chien, quoi. Faut l'être vraiment fiable et ancré. Et ça nécessite de penser à l'être et arriver à l'être. Moi, il y a des situations où je ne suis pas toujours une gardienne fiable et ancrée parce que j'ai des
Et
situations.
personne ne l'est tout le temps, c'est pas,
Voilà.
ce n'est pas
Mais du
possible.
coup, ça amène à réfléchir à ça, en
Oui,
fait. Et
voilà. Déjà, en avoir confiance, c'est
voilà.
déjà.
Et c'est super. En fait, je trouve que nos chiens nous amènent aussi à réfléchir sur nous-mêmes. Et il y a vraiment un effet miroir. Moi, je sais qu'il y a des comportements qu'ont mes chiens parce que par moments, je manque de fiabilité dans certaines choses. Et ils prennent. Ils le font un peu à ma place, quoi. Parce que je manque de fiabilité, mais c'est. Voilà, je me soigne. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment. Enfin, comme tu dis, personne n'est parfait et personne n'arrive à la perfection. Mais ça amène en tout cas à l'introspection, je trouve, et
Oui,
à vouloir faire mieux, en tout cas, à vouloir faire mieux,
mais on a tous senti des jours où on n'est pas en connexion avec son chien.
ouais.
Où on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On a envie de dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Bah toi, qu'est-ce que t'as? Demande-toi, toi, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la connexion ne se fait pas? Pardon. Qu'est-ce qui fait que. Mais c'est ça, c'est nous aussi, parce qu'on est vivant, on est mouvant, on a parfois des choses, des humeurs, des contrariétés qui font que on s'éloigne de notre chien pendant la journée. Et du coup, bon, mais le savoir déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà faire une introspection, comme tu dis. Mais c'est vraiment important, ces histoires de cadre, tout ça, parce que le cadre, c'est vraiment ce qui va amener la sécurisation. Et l'autonomie, après. Un chien sécurisé, c'est un chien qui va accéder à l'autonomie beaucoup plus facilement. Un chien qui connaît des limites et si on les lui a apprises gentiment, bah, il va accéder bien plus vite au respect de l'autre. Dans la socialité, c'est quand même vachement important. Et ces règles dont on parlait tout à l'heure, les routines, les repères, des règles, un règlement intérieur de chaque maison qui regarde chacun chez soi, bah, c'est le vivre ensemble. C'est comme
Oui.
avec les enfants. Je sais pas, on mange pas de bonbons avant de manger. On n'écoute pas la musique trop forte et pas tout seul dans la maison. Ouais, ce genre de choses avec les enfants, ça tombe sous le sens. Mais bah, voilà, avec le chien aussi. Je vois pas pourquoi on donnerait pas des règles à un chien tant qu'elles sont justes et justifiées.
La notion suivante, moi j'ai trouvé vachement intéressante, on n'en parle pas trop, je trouve, sur les réseaux, même de manière générale, c'est sur la neutralité.
Oui, parce que je travaille beaucoup dans la neutralité. La vertu de l'expérience neutre, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas assez cultivé.
Oui.
On cherche le tout positif à cause du positivisme. On confond éducation positive et éducation positiviste. Tout doit être ultra positif. Voir un enfant, c'est merveilleux. Voir une voiture, c'est absolument génial. Voir d'autres chiens, c'est fantastique. On exagère la joie. On surjoue avec son chien. Mais on oublie que le premier apprentissage, c'est le chien, c'est le mimétisme. Et surjouer la joie, c'est l'exciter. Et c'est lui faire, par mimétisme, prendre des émotions qui ne lui appartiennent pas. Et on obtient des chiens excitables. Et après, on va se plaindre que le chien s'excite dès qu'il voit un enfant, dès qu'il voit une voiture, dès qu'il voit des humains, dès qu'il voit le chien être énervé tout le temps, agité. Mais c'est appris, c'est artificiel. Ce sont des chiens excitables et c'est une excitabilité qui est apprise par le comportement humain parce qu'on veut le tout positif. On ne comprend pas que c'est la neutralité qu'il faut rechercher. C'est l'observation neutre, l'intérêt, certes, bien sûr, l'intérêt, l'observation tranquille, et laisser le chien avoir le droit de vivre ses propres émotions et pas aller lui coller les nôtres en disant ouais, c'est super, non, oh là, un chien, ouais, c'est un copain, c'est un copain. Et après, on me dit, mais le chien, il est hyper excitable et quand il voit un chien, il n'en peut plus. Dès qu'il voit un chien, il veut y aller, il saute en bout de longe. Il n'est pas méchant, hein, mais il est super frustré de ne pas y aller. Ben ouais, mais vous lui avez fait croire que les chiens, c'était génial. Mais c'est normal de voir un chien en vie dans une société, il y a des chiens partout. Il faut apprendre la neutralité. La neutralité, c'est pas forcément l'indifférence. Ça n'est pas l'indifférence d'ailleurs. Si je vois un chien, et on ne va pas en faire tout un plat, parce que si je fais tout un plat de voir un chien à chaque fois, ça va être très pénible. Comme si je fais tout un plat de voir un humain. Les chiens réactifs, humains, je ne les rééduque pas dans le super positif de l'humain. Alors pour passer d'un extrême à l'autre, déjà, il va falloir être vachement doué. C'est la neutralité. C'est des humains, il y en a partout. Je veux juste que tu les tolères et qu'au fur et à mesure, tu apprennes à vivre avec eux en leur présence. On va respecter tes besoins d'espace, tout ça, mais on n'est pas dans le positivisme béat qui excite le chien et qui le sort complètement de sa sphère cognitive et émotionnelle, de tout ce qu'il est capable d'analyser. L'excitabilité apprise, c'est pas bon, hein. Alors ça se désapprend. Ça se désapprend, mais c'est long parce que ça se conditionne. Et il y a des chiens qui sont très très conditionnés à être énervés tout le temps parce qu'on a été là avec la surabondance de croquettes, le cliqueur à tout va. Alors, le cliqueur, moi, je suis pas contre le cliqueur, mais on ne sait pas faire les choses dans la nuance. On ne sait plus. C'est tout l'un, tout l'autre. C'est le cliqueur à toutes les sauces, les croquettes à toutes les sauces. On surjoue la joie à toutes les sauces pour absolument tout, parce que tout doit être positif. Il faut que le chien soit super sociable. Et après, ben on va s'en plaindre. C'est une catastrophe. Ces chiens-là ne sont pas particulièrement plus faciles à vivre qu'un chien qui est agressif, hein. D'avoir un chien qui est
Oui,
excité tout le
complètement.
temps.
Ouais. Ah bah oui, non, c'est sûr.
Donc, ni
C'est très
négativisme,
stressé, ouais.
ni positivisme, juste la neutralité, et le chien ressentira les émotions qui lui appartiennent, qu'il a envie de ressentir, dans le calme, et puis la joie, ce sera la sienne, parce qu'il aura choisi d'être joyeux, mais non, oui, je suis, moi, dans l'expérience neutre, je suis vraiment dans la pédagogie de la neutralité, de laisser au chien ressentir ce qu'il a envie de ressentir. Et si t'as pas envie, bah t'as pas envie, t'as le droit. Y a pas de problème.
Un sujet moins sympa, c'est les morsures. C'est quand même un thème que tu abordes dans le bouquin, forcément.
Oui, non, en effet, parce que. Bon là, il y a un constat qui est aberrant quand même, hein. C'est que on passe du simple au double au niveau du nombre de morsures déclarées et de la réalité de l'évaluation. Enfin, le nombre de morsures par an, qui est de 250 000, est un chiffre qui est largement un nombre qui est largement surévalué, parce que ce chiffre se base sur les déclarations. Or, on sait que on passe du simple au double. Que le 500, ce serait 500 000 morsures par an.
Oui, parce
Donc,
qu'il y en a plein qui ne sont pas déclarés, tu veux
ne
dire.
sont pas déclarées parce que vont être déclarés. Le cas typique de la déclaration, c'est la personne qui est mordue par un chat qu'elle ne connaît pas. Elle va porter plainte, elle va déclarer la morsure, elle va aller chez le médecin, elle va aller en mairie. On ne parle pas des morsures à l'intérieur du cercle familial. Là, le chien ne sera, il n'y aura pas de déclaration parce que et donc le nombre, enfin le nombre serait de 500 000. Les morsures de chiens sur enfants, donc à l'intérieur de ce chiffre-là, sont de 22 000 par an. Et encore une fois, c'est sous-évalué. On serait à 100 000 morsures par an sur enfants à l'intérieur du cercle familial. Ce sont les chiffres de l'ANSES, l'Agence nationale de sanitaire. Parce que ça n'est pas déclaré, parce que lorsqu'un enfant est mordu dans sa famille, on ne va pas le déclarer. Et puis surtout aussi, pourquoi autant de morsures à l'intérieur du cercle familial? Parce qu'on est moins attentif, on fait moins attention. C'est le chien de la famille, et on pense que le chien de la famille, il va tout supporter. Et donc on ne fait pas attention. Mais le chien de la famille, bien souvent, il en a ras la casquette des enfants de la famille. On ne fait pas assez attention. Il n'y a pas suffisamment de veille, de cadre, il n'y a pas suffisamment de surveillance des deux. Et puis aussi, pourquoi autant de morsures? Alors, au-delà du fait qu'on n'encadre pas suffisamment les interactions chien-enfant, il y a aussi que la réglementation française est basée sur une classification raciale absolument ubuesque, qui n'est ni réaliste ni suffisante pour assurer une diminution des morsures. On a cru à un moment donné qu'en disant c'est telle race de chien, on va les empêcher de se reproduire, on va les catégoriser. Aucun effet. Cette loi est inutile, complètement inutile. Et en plus, elle n'est pas réaliste, ça n'est pas la réalité. Il n'y a pas assez de mesures préventives. Des mesures qui se situent en aval de l'accident. La prévention, toutes nos mesures en France sont en amont de l'accident. Déclaration de la morsure, évaluation comportementale chez le vétérinaire, et bonjour, bonjour les déclarations, hein. Les évaluations et comportementales. Bref. En fait, en prévention, il faudrait mettre en place des choses qui sont proposées dans le livre, hein, des choses qui relèvent, par exemple, en donner quelques-unes, de la sensibilisation déjà des éleveurs pour des sessions plus éthiques, plus adaptées, plus sécures. Vraiment, de plus en plus. Et puis de faire une
Veux
surveillance.
dire d'en parler de façon plus détaillée aux adoptants quand il y a des enfants.
Non, de quel chien on place dans quelle famille?
Ah, pardon, d'accord.
Sensibilisation sur les
D'accord.
sessions, sur quel chien vous êtes en train de placer dans cette famille avec des enfants? Surveiller les éleveurs qui ne sont pas éthiques et qui placent les chiens sans se soucier de où il va. Ça, c'est une mesure de prévention qu'il faudrait surveiller, parce que si cette mesure est prise mais que derrière il n'y a pas de contrôle, ça c'est la base, c'est vraiment la base, c'est d'où viennent les chiens? C'est quel chien a-t-on placé dans telle famille? Et donc ça, c'est vraiment du contrôle, là, d'aller contrôler où les chiens sont placés, quel type de chien, pour quel type de famille. Alors, il y a plein d'éleveurs qui font un boulot formidable, hein, mais ils sont pas la majorité, je suis désolée. Je suis désolée. Plein d'éleveurs font un formidable travail de sélection. Ils n'hésiteront pas à refuser de placer un chien, et tant pis si la personne. Tant pis, mais je ne vous céderai pas mon chien. Vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas les connaissances, le foyer est inadapté. Il y a des éleveurs qui se déplacent chez les personnes, hein, pour aller voir la maison, pour aller voir le foyer, pour aller voir. Bon, c'est normal. Vraiment. Et puis, il faudrait mettre en place un chantier d'études des contextes de survenance des accidents. Vraiment, un immense chantier où on irait voir dans quel contexte. Ça, c'est préventif. Le profil de chien, ça, on le sait le faire. Le profil de la victime aussi, parce que, comme je disais là, pour le coup, dans mon premier livre, pour être mordu, pour avoir un accident de morsure, il faut être deux. Et les torts sont bien souvent partagés, quand ils ne sont pas carrément à mettre sur le comportement humain. Il y a plein de mesures comme ça que je
Oui,
développe,
je
on va
vois.
passer parce qu'il y a. Mais voilà, il y a des choses, la sensibilisation des enfants, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est la génération qui va. Et moi, il me fascine, les enfants, de voir avec quelle facilité ils sont capables de restituer très vite des informations claires qu'on leur a données. Ils sont capables bien plus vite que les adultes de comprendre. J'ai fait jeudi, on était avec Fabrice Lini, on était bluffés. J'ai passé des photos d'interactions canines par empathie, juste par l'observation. Les enfants ont été capables de me donner les émotions des chiens juste parce qu'on leur laisse le temps d'observer sur des photos et avec précision. Et juste parce qu'avant, on avait fait un peu de théorie sur les postures et tout ça. Il faut former les enfants, il faut vraiment aller dans les écoles, mais encore une fois, on est en retard, ça n'est pas intégré dans les programmes de l'éducation nationale, pas du tout. Ça n'est pas obligatoire. Ce qui existe est au bon vouloir des rectorats, des académies, des professeurs, des instituteurs, et avec les connaissances qu'ils ont. C'est pour ça que d'ailleurs Fabrice Lini, avec Refuge et Tableau Noir, fournit du matériel pédagogique pour être sûr que ce qui est dit est valable.
Après, former les parents aussi, ça serait vraiment bien, quoi. Au moment de l'adoption du chien, connaître les signaux d'inconfort du chien, les situations qui peuvent être problématiques pour les parents, parce que les enfants, jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école, ils ne seront pas capables de comprendre ce qui se passe. Et donc là, c'est aux parents vraiment d'être hyper vigilants et d'être attentifs. Là, tout à l'heure, je veux faire une vidéo sur le phoning. Et en fait, j'ai cherché des vidéos exemples. Et alors là, je suis allée sur TikTok. Et j'en ai vu des milliers, hein, des vidéos. Mais il y a tellement, tellement de choses qui sont faites dans l'inconfort du chien. Les gens vont faire des petits loves en commentaire et tout. Alors qu'en fait, on voit tellement que le chien, il est pas bien et qu'il prend tellement sur lui pour pas bouffer le gosse.
Sur
Et en fait, mais
Instagram,
les gens
c'est une
ne
horreur.
savent pas en fait lire ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe en fait. C'est dramatique en fait pour le chien et pour l'enfant, quoi. Ensuite, parentalité et guidance.
Ben oui, en fait, on en a un peu
Oui.
parlé tout à l'heure.
Avec le
C'est
cadre, ouais.
vraiment là, pour le coup, c'est le parallèle éducatif entre les besoins du chien et les besoins de l'enfant. Et là, si on part de John Bowlby, qui a mis en place la théorie de l'attachement, tout part de John Bowlby, c'est la théorie de l'attachement chez l'enfant, hein. On croyait avant, en gros, qu'il fallait laisser pleurer le bébé, que pour qu'il devienne autonome, il fallait comme on va penser que le chiot, il faut qu'il accède vite à l'autonomie, donc il doit dormir tout seul, apprendre à dormir tout seul. Sauf que ça développe beaucoup d'anxiété et quand on fait ça, on ne fait que développer un attachement anxieux. Pour développer un attachement sécure, il faut développer les bases sécuritaires et laisser au chiot le droit de grandir à son rythme. Un chiot, si on se met à sa place, si on rappelle un petit peu que avant qu'il arrive chez nous, il dormait au chaud avec sa fratrie. Le chien est un dormeur social. Le chien aime dormir contre. Bon, maintenant. Nous, quand on adopte un chien, enfin nous, souvent on voudrait que ça aille vite parce qu'on va reprendre le travail, il faut que le chien fasse ses nuits, il faut que le chien soit propre vite, il faut que le chien dorme tout seul, il faut que le chien... Mais tout ça ne fait que développer l'attachement anxieux. Et tout ce qu'on va vouloir accélérer au départ va créer des problèmes par la suite qu'on aura énormément de mal à régler. L'attachement, lorsqu'il est... Sécure, les bases sécuritaires lorsqu'elles sont là, lorsque l'attachement est sain, lorsqu'on a montré au chiot je suis là et je serai là. Et même si je m'en vais, je suis là. Quand je m'en vais, je suis encore là. Lorsque on fait ça, lorsqu'on permet au chiot au départ de dormir avec lui, de dormir, mais pas forcément dans la chambre. Si vous ne voulez pas que le chiot dorme dans votre chambre, c'est votre droit, mais descendez, dormez avec lui au départ avec lui, accompagnez-le, essayez ou si vous n'avez pas un autre chien. Pour ceux qui ont déjà des chiens, c'est évidemment plus facile, mais cet attachement doit être sécure et doit être solide. Et c'est comme ça que le chiot va accéder assez rapidement à l'autonomie. D'ailleurs, ça se vérifie à chaque fois. Les gens me disent, bah, en fait, il dort pas avec nous. Il dormait avec nous au début, puis maintenant, des fois, il dort dans le couloir ou carrément dans le salon. Il dort pas avec nous. Mais oui, mais parce que c'est bien la preuve. Il sait que vous êtes là, c'est bon, c'est gagné. Si votre chien, à un moment donné, s'éloigne et va dormir dans le canapé alors que vous lui avez permis de dormir dans le lit, c'est que l'attachement est sécure, c'est que et ça le protège de l'anxiété de séparation, et du coup cette figure d'attachement-là doit être stable, elle doit être constante, elle doit être solide, et ça se joue dans les premiers mois. Il faut passer du temps, il faut faire preuve de patience. Et c'est la même chose avec l'enfant, c'est la même chose avec les petits-enfants, avec le bébé. Bon, là, du coup, bah, c'est la théorie de l'attachement, les quatre attachements de John Bowlby. Et c'est voilà aussi pourquoi, un peu plus tard, il ne faut pas laisser le chien toujours comme ça en roue libre et faire ce qu'il veut et décider de tout rapidement, parce qu'il va se construire sur de mauvaises décisions, des mauvais choix, parce qu'il n'aura pas été accompagné suffisamment. Donc, en voulant accélérer l'autonomie, en disant oui, mais moi je le laisse faire comme ça, il va choisir, il va faire ses choix, et puis il va. Mais non, pas du tout. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt du tout, il faut l'accompagner, il y a un juste milieu en fait. Et là, oui, il deviendra mature et il va accéder à l'autonomie probablement plus vite qu'un autre chien, mais certainement pas en voulant tout accélérer.
Sur la fin du livre, enfin sur la dernière partie du livre, tu abordes donc des termes, moi j'avais pas encore vu quelque part, qui est donc l'éducation canine développante.
Oui, non, mais c'est parce que c'est pareil, c'est moi. J'invente des mots. J'invente des expressions.
L'éducation canine, ça existait déjà, c'est le mot
Non,
développante,
développante.
voilà, qui est une expression que j'avais encore jamais lue quelque part.
Bah, c'est tout ce que je viens d'expliquer. C'est le parallèle que je peux faire avec les principes d'apprentissage chez l'enfant. Et là, je vais chercher Maria Montessori, qui est singée beaucoup trop souvent et qui est la plupart du temps méconnue totalement. Sur les réseaux, on parle de Maria Montessori sans avoir jamais lu aucune ligne d'elle. J'ai fait une publication sur elle. Je peux donner plein d'exemples. Maria Montessori parlait du rôle de l'environnement et c'est la gestion environnementale. Le rôle de l'environnement pour Maria Montessori, de l'environnement maîtrisé pour l'enfant, c'est la gestion environnementale que nous pratiquons pour le chien. C'est celle qui va le mettre en situation de bas stress et de pouvoir analyser l'environnement et d'évoluer dans un environnement qui soit sécure émotionnellement et physiquement, bien sûr. Mais Maria Montessori l'aborde pour le traite pour l'enfant. La motivation, garder la motivation d'un chien intacte. Mais Maria Montessori dit la même chose pour les enfants avec la sphère ludique. Maria Montessori dit le travail de l'enfant, c'est de jouer. Et faites jouer les enfants et vous verrez qu'ils apprendront bien plus vite et de manière bien plus saine et bien plus sûre et bien plus rapide. Je le sais, puisque à titre personnel, ma fille a été déscolarisée et placée dans une école Montessori jusqu'à l'âge de 8 ans. On nous avait prédit tous les malheurs, qu'elle aurait du mal à s'adapter à l'enseignement plus tard, que Maria Montessori c'était n'importe quoi, qu'attention, qu'on les laissait tout faire, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, on a appris des lois de l'apprentissage, on a appris de. La motivation est toujours intacte. Tout est fait pour que la motivation de l'enfant soit là et nous, on le restitue avec le chien. On fait ça pour faire attention que la motivation soit toujours intacte. Sinon, il n'y a pas d'apprentissage, sinon, il n'y a pas d'envie. Et même dans la rééducation, on fait tout. Tous les protocoles qui sont mis en place sur le terrain sont faits surtout que le chien ait envie de revenir. Que surtout le chien vive une expérience qui soit. Pas forcément super positif, mais juste il était bien, il s'est rendu compte de rien. Ça s'est passé. Voilà, c'est nous qui avons travaillé, c'est le gardien qui bosse. Le chien, lui, il est là. C'était chouette, c'était sympa, c'était détendant, c'était apaisant. Voilà. Ça, c'est Maria Montessori. L'utilisation du renforcement, il limite tout ce que Maria Montessori dit du renforcement, et qui a été d'ailleurs confirmé après, Skinner l'a dit lui-même. Le renforcement n'est pas un outil. Éducatif, ça n'est pas une méthode, c'est un outil parmi tant d'autres, mais il n'a pas vocation à développer une morale, il n'a pas vocation à développer une relation, il n'a pas vocation à développer la spontanéité d'un être, il façonne, il crée du comportement, c'est tout. Ça n'est pas suffisant, c'est Skinner qui le disait, il a été confirmé après par tous les psychologues qui sont héritiers de Skinner, comme Kasdine, qui ont dit attention, Le renforcement positif, on peut l'utiliser, mais il a ses limites. On n'éduque pas un être sur le renforcement positif. Donc oui, mais avec des nuances, toujours. Maria Montessori le disait. L'utilisation du renforcement et ses limites, la connaissance des périodes sensibles chez l'enfant. Mais c'est la même chose pour nous, pour le chien. Si tu connais pas les périodes sensibles de développement d'un chien, ça va être un petit peu compliqué dans le métier. Et puis, tous ces ancrages, tous ces apprentissages qui doivent être ancrés dans le réel, en tout cas moi j'y tiens beaucoup, je ne travaille qu'en milieu réel parce que Maria Montessori m'a montré et je l'ai appliqué avec des centaines de chiens que plus c'est ancré dans le réel et plus le chien apprend et retient vite. C'est pour ça que je suis opposée à tous les apprentissages artificiels dans le salon, dans la cuisine. On travaille dans le salon et puis après on voudrait que le chien fasse le grand écart avec le milieu réel. Mais ça ne marche pas. Combien de gens me disent, bah, à la maison, il est capable de faire plein de trucs, mais dehors, c'est une catastrophe. Mais oui, parce qu'il ne conceptualise pas. C'est le milieu réel, il doit apprendre en milieu réel, maîtriser. Maîtriser, bien sûr. Et tout ça, c'est la pédagogie Montessori, et ce sont, alors pas que, il y a plein d'autres, on peut prendre pas Skinner, mince. Bon, bref, c'est pas grave. Mais il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre le chien et l'enfant, en termes éducatifs, en termes d'apprentissage, qui ne sont pas du tout de l'anthropomorphisme, mais pas du tout. Là, pour le coup, ce sont deux êtres vivants, sensibles, émotifs, intelligents, évolutifs. Et du coup, en ça, bah oui, carrément. Et ne pas le voir, pour moi, ça, c'est faire de l'anthropocentrisme. Ou comme disait Franz De Waal, de l'anthropodéni. Hein, penser que tout ça nous appartient. Ce n'est que nous, les humains, qui sommes capables de faire tout ça. Pas le chien, qui est une sous-espèce. Les animaux, nous n'en sommes pas. Voilà. Donc, on n'est pas des animaux et on se place au-dessus et on va bien segmenter. Attention. Parce que ça aide vraiment les chiens, et même surtout ceux qui ont des difficultés émotionnelles.
Et le dernier mot, c'est le mot oublier.
Bah oui, c'est la fin du livre et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, moi, et qui m'interpelle beaucoup. Je trouve que les chiens et les enfants sont oubliés de la société. J'avais écouté un podcast de Thierry Pacaud il y a quelque temps, enfin quelques mois, qui a justifié que je parle de ça dans mon bouquin, qui est spécialiste de l'urbanisme, où il parlait justement des enfants qui étaient complètement oubliés des villes. Et plus je l'écoutais parler des enfants dans les villes, dans les villes déshumanisées, et plus je me disais, mais tout ce qu'il est en train de dire est applicable aux chiens. On peut prendre son discours et remplacer chien par enfant, enfant par chien. Ça marche. Tout, absolument tout. Et d'ailleurs, j'ai regretté qu'il n'aille pas jusque-là, de ne pas dire, mais d'ailleurs, si on fait la ville mieux pour les enfants, elle sera mieux pour les chiens, mieux pour les personnes en situation de handicap, mieux pour les personnes neurodivergentes. Mieux pour tout le monde en fait, même pour les personnes. Donc et aujourd'hui, on a l'impression ils n'ont plus voix au chapitre. Quand on voit, c'est effarant, la tendance no kids dans les restaurants, dans l'offre touristique, interdit aux chiens et aux enfants, interdit de marcher dans les pelouses, interdit aux chiens, même tenue en laisse, de plus en plus. Et en octobre 2025, donc l'année dernière, il y a eu une marche sur les Champs-Élysées, 2000 chiens à peu près. Et 2000 gardiens de chiens ont défilé pour réclamer le droit à une ville où il fait bon vivre. Ça, c'était en octobre 2025. Et ça a quand même créé quelque chose. Hein, on en a entendu parler notamment sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'associations qui ont participé. Hein, le propos est de dire que les villes ne s'intéressent pas du tout à ce qui ne consomme pas, à ce qui ne produit pas, à ce qui ne se déplace pas rapidement, la voiture. À partir du moment où on est lent, à partir du moment où on ne consomme pas, on est mis à la marge de la société. Et tu consommes pas, tu produis pas, tu touches, tu explores, tu es curieux de tout, tu déranges. En plus, tu es salissant, en plus, tu vas crier, tu vas bouger trop, tu vas, et puis parfois marcher lentement, et puis parfois faire des pauses, et puis avoir besoin d'observer, tu vas avoir besoin, et on va pas penser à toi. On va pas penser, et on va penser à la voiture, on va créer beaucoup de parking. Créer beaucoup de parking, on va créer beaucoup de. Et puis alors, du coup, on va faire semblant d'accueillir le chien et l'enfant. Comment? Le chien, on crée des parcs urbains horribles, carcéraux, dévégétalisés. Moi, il me faudrait me payer pour mettre mon chien dans ce genre d'endroit. Et pour les enfants, on va leur créer des aires de jeux métalliques horribles qui sont à l'imagination ce que les parcs urbains sont à l'éthologie du chien. Et voilà, on va dire, bah, si on accueille les chiens et les enfants, mais c'est pas ça, accueillir. C'est repenser complètement la ville, c'est pour tout le monde, c'est repenser complètement comme. Et il y a des exemples, et ça commence à bouger. Il y a la ville de Lille qui a fait une charte du bon vivre et qui régulièrement piétonnise les grandes rues à l'initiative de l'association Les Potentiels, les potes, les potes, les copains, les potes en ciel, où elle piétonnise une ville, une rue, le temps d'un après-midi pour les enfants. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette rue, en plus des enfants, je te le donne en mille, des gens et leurs chiens. Eh oui, les gens viennent là, et chiens et enfants, des personnes âgées, et puis à cet endroit où il n'y a plus de voitures sur des. Eh ben, on va voir qu'en fait, on regroupe tout le monde. Et soudain, ça devient vivable pour tout le monde. Donc en fait, quand on parle des oubliés de la société, quand on parle de faire une ville qui soit plus adaptée aux chiens, si la ville est plus adaptée aux chiens, elle sera plus adaptée à l'enfant, elle sera plus adaptée à tout le monde, elle sera plus adaptée aux personnes en situation de handicap parce que c'est par exemple repenser les notions de distance par rapport aux véhicules, donc des trottoirs bien plus larges, c'est diminuer la vitesse. Mais drastiquement, c'est repenser à une architecture aussi qui soit moins dangereuse, moins agressive, dans ses angles, dans les arêtes. Combien d'architectures, on dirait que c'est fait pour pas qu'on monte dessus, quoi. Pour pas que les enfants montent dessus, pour pas que. Il n'y a pas d'aventure possible. Alors ça paraît idéaliste, hein, ça paraît. Mais n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est de nature à rendre tout le monde bien, bien plus heureux. Et pas seulement les personnes qui auraient des neurodivergences ou une difficulté ou des hypersensibles. Non, c'est tout pour tout le monde. Et par exemple, en Suède, ils font un truc qui est formidable et qu'on devrait faire partout. Je ne comprends pas pourquoi on n'y a pas déjà pensé. Les week-ends, les jours fériés et les vacances, les cours d'école et les terrains sportifs sont ouverts gratuitement. Tout cet espace inutilisé qui est fermé à clé pendant les vacances scolaires, pendant les jours fériés, tous les week-ends, tous ces espaces, mais tu te rends compte, les écoles sont ouvertes, et encore une fois, pour les enfants, mais les gens y vont aussi avec leurs chiens. Alors après, évidemment, ça demande du civisme, parce que qui dit je viens avec mon chien? Je viens avec de quoi ramasser les déjections de mon chien. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. Il ne faut pas aussi voir que le côté, c'est que on
Oui.
a peut-être aussi payé toute ce manque de civisme de laisser les chiens crotter partout, de ne rien ramasser. Et voilà, donc mieux accueillir, je voulais dire que mieux accueillir le chien, l'enfant, mieux accueillir, ça n'est pas multiplier des espaces comme ça qui sont mal dédiés. Comme les parcs urbains, comme les aires de jeu, c'est vraiment repenser totalement en se faisant avec des architectes qui seraient acquis à la cause, qui auraient des notions d'éthologie et peut-être même mêler architecture et éthologie, se questionner, dire bah, on a besoin d'éthologues canins, de comportementalistes canins pour nous conseiller qu'est-ce qui serait bien pour le chien, parce que je vous assure que si c'est bien pour le chien, c'est bien pour les enfants. Les enfants et les chiens préfèrent jouer dans les ruines, préfèrent jouer dans les bois, dans la boue, plutôt que dans des aires de jeu aseptisées, segmentées. C'est là qu'on joue et pas ailleurs. C'est pas vrai.
Merci Audrey. Est-ce que il y a un mot de la fin?
Baf. Oui, je pourrais. Forcément, ce
Et
livre, je
à
l'ai.
la fin, tu dis, j'aurais dû que tu ouvres le débat en fait. Je sais plus.
C'est un essai, ce livre, c'est un essai.
Oui, que
Il
tu
a pour.
ouvres le débat
Le
à la discussion. Ouais. C'est
débat est
ce que
ouvert,
c'était.
c'est un essai. Le but, c'est pas de conclure, c'est d'ouvrir un débat. C'est d'ouvrir. Je voudrais que ce livre soit le début. Le début de quelque chose, qu'il vienne un peu bousculer, qu'il vienne à une époque où quand même on voit des choses se faire, on voit, comme je parlais de la marche sur les Champs-Élysées, de ces gens qui se sont déplacés avec leurs chiens pour dire on veut une ville plus vivable, des initiatives comme la charte de la ville de Lille, des choses comme ça, comme tout à l'heure le procureur général de Toulouse qui met en place des choses pour protéger femmes, enfants et chiens. Et tout ça, c'est dans un même livre. Et j'aimerais vraiment. Bah après, voilà, il aura la vie qu'il aura. Bon, bah, s'il ne fonctionne pas, tant pis. Mais ce serait. C'est un débat. C'est un essai. C'est un essai. Alors, il peut choquer. Il peut être rejeté. Dire, je suis pas prêt. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vois pas le chien. Texte à l'appui, hein. Il y a évidemment des déclarations dedans, la déclaration de Cambridge est citée dedans, la déclaration de Toulon, la déclaration de New York, qui reconnaissent une conscience subjective à tous les mammifères, dont le chien, une conscience subjective, des expériences subjectives. Ce n'est pas vrai que l'être humain est le seul à avoir une conscience. On a donc des neuroscientifiques, des personnes comme Stephen Hawking qui ont signé la convention de Cambridge pour dire que, attention, il faut arrêter de faire de l'entre Anthropomorphisme. Il faut arrêter. On ne peut pas, d'un côté, vouloir augmenter le statut du chien, l'élever dans la sphère sociétale et lui reconnaître des droits fondamentaux, et d'un autre côté, affirmer que le chien n'a pas, par exemple, de ressentiment, qu'il ne peut pas être en colère contre son gardien, affirmer qu'il ne peut pas nourrir du ressentiment, parce comme s'il n'était capable que de joie, amour, comme s'il oubliait tout ce qui lui arrive. Il peut être reconnaissant envers toi, mais il ne peut pas t'en vouloir. C'est faux. Et puis c'est pas réaliste et c'est totalement immature. Et puis surtout, les éthologues évolutionnistes comme Marc Bekoff le disent dans ces. Bon, voilà. Donc c'est vraiment un essai et c'est vraiment pour dire, faut vraiment changer nos perceptions sur le chien. C'est pas suffisant de dire qu'il a des émotions. C'est pas assez.
Je vais vous laisser, si vous voulez poser des questions à Audrey, je vous laisse les mettre en commentaire. Pendant que vous les posez, moi j'en ai eu une sur Instagram suite à mes stories. J'ai une personne qui m'a demandé si le chien pouvait être jaloux, sachant qu'il n'avait pas lu ton livre.
Oui, bah dans mon livre, oui, je le développe assez longuement sur la jalousie et donc avec Marc Bekoff à l'appui justement sur les expériences qui ont été faites sur la jalousie pourquoi il oppose la jalousie à la protection de ressources, hein, que la jalousie et la protection de ressources, ça n'est pas du tout la même chose, que la protection de ressources, c'est un comportement qui est un comportement de protection d'objets. Alors que la jalousie est une émotion et qu'elle s'inscrit dans une sphère sociale et relationnelle. Donc ça, il ne faut pas dire à quelqu'un, ton chien fait de la protection de ressources sur toi. Ça n'a pas de sens d'un point de vue subjectif, émotionnel, cognitif. Le chien fait de la protection de ressources sur des biens, sur des lieux, sur des choses qu'il va thésauriser. Mais Bekoff dans son expérience enfin, en parle, donc il explique ça. Enfin, c'est développé dans le livre aussi avec des expériences personnelles sur des études que moi j'ai faites sur des chiens qui étaient dans une ambiance affective de jalousie qui était polluante. Et donc c'est dans l'analyse systémique qu'on va comprendre tout ça et on va apaiser tout ça dans la relation. Mais oui, bien sûr que le chien peut être jaloux.
Et j'avais une autre question. Quel conseil donnerais-tu quand on est prof, qu'on a un petit garçon de bientôt 8 ans, hyperactif et un chien qui est réactif? La personne dit qu'elle a été en arrêt à cause de ces deux premiers points, donc parce qu'elle est prof et qu'elle a un petit garçon hyperactif, mais que du coup, elle n'a pas l'énergie pour travailler son chien.
Et du coup, si elle n'a plus l'énergie, donc travailler son chien pour. Si elle n'a plus
Par
l'énergie pour.
rapport à sa réactivité, je
Par
pensais.
rapport. Quel conseil, j'ai pas de conseil à donner, puisque forcément les conseils qui vont être donnés vont être des conseils de mise en place environnementale. L'hyperactivité, si elle est avérée, si elle est diagnostiquée, de quelle hyperactivité parle-t-on? Il faut faire une étude. Est-ce qu'on parle du syndrome neurologique ou est-ce qu'on parle d'une hyperactivité artificielle, comme il y en a tant chez les enfants? Quand je dis artificielle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, hein. Ça veut dire qu'il y a une hyperactivité, mais elle n'est pas neuro. Elle est créée par les conditions environnementales. Ça peut être la nourriture, les enfants qui sont trop exposés aux écrans, les enfants qui sont pleins de sucre, qui mangent mal, qui mangent trop de sucre, les enfants qui ne font pas de sport, avec un environnement qui est... Bon, voilà. Donc, et puis après, il y a l'hyperactivité neurologique. On parle de quoi? Et pareil pour le chien, c'est la même chose. De quelle hyperactivité on parle. Mais de toute façon, il y aura forcément un accompagnement à mettre en place. Il faut se faire aider, être accompagné par un coach compétent. Et donc, j'ai pas de conseil à donner. Si on me
Bah,
dit
si
mes
tu viens de
conseils,
le donner.
voilà, ben, ok.
Voilà. J'avais promis que je poserais la question, donc j'ai fait mon job. Hâte de découvrir page après page cet essai qui m'apparaît de prime abord très cohérent, en phase avec mes perceptions. C'est Séverine. Laureline Dalmo, elle demande dans quel livre de Bekoff?
Non, ce sont les études, ce sont des études. C'est une étude. Elle est dans le livre. Tout ce que j'ai cité là fait partie de la documentation.
Mélanie, il me tarde de lire ce livre car j'avoue que j'ai du mal avec cette vision négative de l'obéissance. J'en fais avec mon chien, maillon par le jeu, et je ne pense pas que ça influe négativement notre relation ou sa capacité à prendre des décisions. Pas de question, mais c'est un commentaire. Est-ce que
Et
tu as quelque
après,
chose à...
bah en fait, après, ça se discute. Si on parle par exemple de l'obédience dans le jeu, je suis obligée de dire que j'ai du mal avec ça, avec le fait d'avoir une relation avec le chien qui est dans l'obéissance. Je joue à faire obéir mon chien et mon chien aime ça. Mon chien est conditionné. Les chiens se conditionnent à ça. Ça n'est pas éthologique, mais du coup, on peut mettre. Je lis forcément. Là, d'ailleurs, j'ai lu un formidable article de Corinne Martin sur les activités canines et je suis complètement en phase avec elle. Où elle explique que enfin, les activités canines, il y a une différence entre être excité en arrivant sur le terrain d'agility et aimer ça. L'excitation, c'est pas la. Et puis, il y a le conditionnement aussi. Si ça n'est pas éthologique, et moi, je suis vraiment en phase avec l'éthologie, et tout ce qui ne sera pas éthologique va me poser un problème. Alors, après, je ne juge pas. Mais c'est ma vision des choses, et je dis si le chien n'y va pas de lui-même, ça n'est pas éthologique. C'est une envie qu'on lui colle et on le conditionne. Si c'est un besoin, il le fera de lui-même. Et si c'est un besoin, il convient de lui permettre de l'assouvir. Mais si c'est une envie, on lui a donné, je ne connais pas de chien qui de lui-même s'est mis à faire de l'agility ou qui de lui-même s'est mis à faire de l'obéissance. Ça ne se peut pas. Ce sont des activités humaines qui font avant tout plaisir à l'humain. Dans la relation, il y a du conditionnement. Le chien aime ça. Je n'en suis pas convaincue du tout.
Jennifer, pour être enseignante en Belgique et éducatrice canine, je suis entièrement d'accord. Je vois moi-même les points communs. Ce serait tellement bien qu'on évolue. Donc, je pense que c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les villes et les enfants et les chiens. Ça serait tellement bien qu'on évolue et qu'on ne se prenne pas pour des êtres supérieurs. Merci pour ce superbe live. Hâte de découvrir votre livre.
Merci.
Sandrine, je n'ai pas de questions, juste envie de vous remercier toutes les deux pour cette soirée. Mais Madame Ventura, vous êtes absolument captivante, c'est passionnant, ça fait tellement de bien d'entendre des personnes sérieuses avoir une vision similaire à la sienne. Nicolas, si l'on part du principe que le chien est un être social qui se développe dans le lien à l'autre, alors comme l'enfant, il me paraît nécessaire de le considérer comme un être subjectif et de penser un lien qui l'unit à l'autre.
Ah ben
En
je suis bien
souffrance,
d'accord.
C'est un essai qui me semble avoir de l'avenir. Il faut que je relise le truc, moi. Bravo et merci. Alors, Philippe parle du mantrailing. Est-ce que le mantrailing, tu le mets dans la même case,
Ah non.
toi, que l'agility et
Ah, pour
le...
moi, c'est la seule activité, c'est la seule activité que moi je vais conseiller. On est en plein dans le monde du chien, on est dans une activité qui est canine, qui est éthologique, qui est vraiment, c'est le chien qui mène la danse là. C'est le chien là, c'est lui qui. Et là, du coup, l'humain va devoir être en retrait, observer son chien, comprendre. C'est tout un travail quand c'est bien fait, le mind training avec le bon instructeur. C'est quelque chose. Non, le mind training, et je ne mets pas le mind training sur le même. C'est bien d'avoir demandé, j'aurais dû le dire.
Il y avait plusieurs questions derrière sur le
Non, 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 je ne
mantrailing,
mets pas le mind
ils vont
training
être
sur le
contents de
mind.
t'entendre. Voilà, Sandrine dit, les activités de flair sont pour moi éthologiques.
Bien sûr, bien sûr.
Ensuite, ben, merci beaucoup à toutes les deux. Là, je te laisserai, il y avait des commentaires aussi pendant que tu parlais tout à l'heure, je te laisserai aller voir après dans le replay. Je ne te les ai pas lus pour pas te couper, mais qui allaient dans ton sens en tout cas. Il y a plusieurs commentaires de profs en fait.
Il y a des profs, il y a plein de profs, c'est chouette, c'est
Il y
cool.
en a, oui, en moins de commentaires, il me semble, de personnes qui avaient la même impression par rapport aux enfants et l'étiquette qui leur est mise en fait. Ok. On va s'arrêter là, je pense. Je pense que tu as vraiment. On a quand même un beau résumé, un très gros résumé de ton livre. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toi, par rapport à ce qui a déjà été dit.
Ben non, écoute, moi, si tu veux, s'il n'y a plus de questions, moi, je ne vais pas rajouter. Après, il faut lire le livre. Après, on va tout dévoiler. Mais s'il y a encore deux, trois questions, tu peux. Allons jusque, je sais pas, jusque 22 heures, si tu souhaites, s'il y a d'autres questions.
Et pour le moment, il n'y en a pas d'autres.
Voilà.
Allez,
Donc, voilà.
soyez pas, ils sont peut-être timides, je sais pas. Moi, j'en aurais des questions à votre place, mais bon. Alors, Laetitia, un grand merci pour ce livre. Toujours intéressant d'écouter Audrey Ventura et en particulier ce passage sur les oubliés que sont les chiens et les enfants. Bon, t'as beaucoup de remerciements, en tout cas, ils sont contents ou sont peut-être comblés, je ne sais pas. Moi, j'aurais une question. Allez, je vais me mettre en tant que particulier.
Allez.
Comment tu fais pour mettre un cadre sans être autoritaire?
C'est une bonne question et franchement, c'est tout ce que je viens d'expliquer, c'est cette présence ancrée, assumée, c'est le fait d'installer dans l'environnement des règles qui soient justes et justifiées. C'est vraiment très important, je le répète toujours, les règles justes et justifiées. Pour le chien, c'est super important, mais je pense que c'est pareil pour l'enfant. Bon, l'enfant va pouvoir lui expliquer, d'accord? On va pouvoir lui expliquer pourquoi c'est non, pourquoi.
Alors, du coup, est-ce que je peux dire non à mon chien?
Moi, je pense qu'on peut dire non à son chien. Moi, je dis non à mon chien. Alors, je ne passe pas mes journées à dire non, 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 non,
Ah,
non.
ça c'est oui.
Je répète
C'est
pas
qu'il y aura un
50 fois.
problème.
Voilà, mais les rares fois où je dis non, je n'ai jamais eu de problème à être comprise. Et je pense que si cet emploi du non est incorporé dans tout ce qu'on vient de dire, dans le cadre, avec des règles, avec des limites, lorsqu'on a appris, je crois que le chien. C'est même pas que je le crois, c'est que j'en suis convaincue. Le chien comprend tellement de choses. Bon sang, je pense que plus on croit qu'il n'en est pas capable et plus il n'en sera pas capable en fait. Quand on dit il faut pas dire non à un chien parce qu'il comprend pas,
En fait,
l'enfant
c'est que
dit
souvent
non
les
à un
gens ils disent
chien.
non, mais ils vont pas redire, ils vont pas proposer une alternative.
Oui, alors proposer une alternative, oui, mais aussi parfois, c'est une interruption. Juste, c'est une interruption. Il en va parfois, alors de sa sécurité. Et on va pas. Donc, il faut pas que ce soit dit comme une habitude, que toute l'éducation repose sur le non. Je ne dis pas ça. Mais C'est quand même un des premiers mots que l'enfant dit au chien.
C'est une personne qui dit que c'est la question qu'elle a posée quand même. Mais c'était sûr parce que dans l'éducation, en fait,
Une personne que
même
toi.
moi, en tant qu'humaine, en fait, quand moi, ça fait 20 ans que je suis dans le chien, expression merde alors, cette phrase. Mais en fait, c'est vrai, n'empêche, ça veut rien dire. Mais ça veut tout dire en même temps, c'est-à-dire, j'ai suivi, moi j'ai démarré, j'avais lu le livre d'un veto qui disait que le chien fallait le dominer, t'imagines quoi. Donc ça a évolué, il y a eu plein de courants, il y a eu plein de pensées, tout le monde, plein de gens très intéressants, d'autres moins. Et en fait, t'arrives à la fin, toi t'as tout suivi, t'as essayé d'écouter, t'as dit, ah ouais, ça c'est pas, ah ça c'est bien, ah bah ça me plaît bien. Et puis en fait, à la fin, tu te fais ton schmilblick à toi en fait. Et c'est vrai que moi, il y a eu un moment où j'osais pas dire non à mes chiens. Je dis non, il faut que tu rediriges, il faut que tu fasses ci, il faut. Ah bah, de la gestion de l'environnement. Oui, de la gestion de l'environnement. Mais en fait, à la fin, t'oses même plus. Je trouve qu'il y a quand même une réelle difficulté à oser dire je pose un cadre sans être autoritaire, sans faire peur à mon chien, en osant peut-être dire non. Tout en étant en rapport respectueux avec son chien. Je trouve
Mais
que ces
oui.
quatre notions-là, elles sont difficilement mélangeables aujourd'hui dans l'approche du chien, en fait, de
Mais oui,
manière
parce
générale.
qu'en fait, on veut que ce soit simple. Donc, on veut que ce soit binaire. Donc, on
Oui.
veut que ce soit blanc ou noir. Donc, c'est.
Ah, c'est plus facile quand même, hein, quand
Mais
c'est binaire.
oui, mais c'est pas comme ça. Et la vie. Non, mais voilà, c'est ça. C'est qu'on veut que ça aille vite. On veut que ce soit simple. On veut avoir pas trop longtemps la responsabilité parce qu'on va. Mais moi, je le dis, je n'ai pas de problème à dire non à ma chienne et elle comprend tout à fait quand je le dis. Et ma fille aussi. Bon, voilà. Et pourtant, Dieu sait si. J'ai pu justement rééduquer la réactivité, l'agressivité de Scarlett, justement en lui foutant la paix, quoi. Hein. Bah dans ce je te fous la paix, il y avait quand même, mais je suis là. Hein. On peut pas foutre la paix et puis regarder ailleurs et puis laisser faire. C'est pas et mettre et dire non. Rediriger quand c'est possible, mais parfois la redirection n'est pas possible, c'est non, c'est dangereux, enfin, on va même le crier, quoi, enfin, vous voyez, tu vois, c'est quelque chose. Puis ça fait partie de notre langage. L'éthologie, c'est pas fait que pour les chiens. Et la nôtre, alors? Alors on va dire aux gens, on va enlever des mots de notre vocabulaire, mais c'est le consentement aussi, le non. C'est aussi toutes ces notions-là. Moi, je ne me vois pas dire à un enfant, tu dis pas non au chien. Ça va pas, non? Non. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a débat, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec moi. On peut pas, évidemment, on ne peut pas être tous d'accord tout le temps. Et d'ailleurs, on peut aimer un livre et ne pas être d'accord. Il y a plein de gens qui m'ont dit, j'ai adoré votre premier livre, je suis pas d'accord sur tout, mais j'ai vraiment aimé. Ben, super, c'est pas possible d'être d'accord sur tout. C'est pas, on peut pas. Enfin.
Est-ce que ils ont osé poser d'autres questions gênantes? Bon, Romain, il dit, faites-vous confiance, personne n'a appris à être parent, c'est l'expérience qui nous façonne.
Mais ouais, mais c'est
C'est pas
clair.
faux, c'est pas faux, mais avoir des connaissances, ça aide à avoir une bonne expérience.
On dit toujours, ce sont les enfants qui font les parents. Eh ben, ce sont les chiens qui font les gardiens et les gardiennes. On fait avec le chien qu'on a. On apprend avec le chien qu'on a, et on aura toujours. Et il faudra toujours se renouveler de toute façon, parce que, je sais pas, t'as deux chiens, ils sont pareils.
Ah bah bien sûr que non.
Ben voilà.
S'ils étaient tous les deux comme Tao, je m'ennuierais.
Souvent, mes clients ont ça. Ils ont eu le premier chien Angelot, celui qui naît tous les 100 ans à la pleine lune, le chien qui est sans problème, le chien qui passe partout, mais partout, adaptable à souhait. Voilà. Et après, du coup, ils en prennent un deuxième, plein de confiance, en disant Et là, ils tombent sur le paroxysme inversé, l'enfer sur terre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ben ouais, voilà. Et
Non,
c'est
mais tu
pareil
vois,
avec les
du
enfants.
coup, on n'est pas trop des deux à l'accompagner ce deuxième. Ah, Yannick, il ne faut pas confondre ne pas dire non Et dire non n'apprend rien au chien. Dis-lui au couteau. Ah, dis-lui plutôt ce que vous voulez qu'il fasse. Oui.
Oui,
c'est
aussi.
Très Yannick. Oui.
Aussi dire oui, mais si un chien est en train de manger quelque chose de dangereux, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise qu'il fasse? Mange plutôt, si on est dehors, ben oui, on va dire, c'est comme lui dire non à ce moment-là, c'est comme lui dire pas toucher. C'est la même chose. Si vous dites non et que le chien a appris en disant non qu'il va avoir une saucisse, il va bien aimer que vous lui disiez non, hein.
Certes.
Tout dépend comment vous apprenez. Enfin, c'est tout. Donc, bon, c'est ça se discute.
Romain, la confiance n'écarte pas la curiosité, la culture. Connaissance et confiance peuvent se cumuler, c'est même la vie. C'est beau. Ah, t'as posé une question plus haut, Émilie, je ne l'ai pas vue. Flûte, flûte, flûte. Émilie, ah, quel est votre avis sur une obligation pour tout humain voulant adopter un chien d'une formation en éthologie canine? Ah oui, quel est votre avis sur obliger en fait toute personne qui va adopter un chien d'avoir une formation en éthologie canine?
Moi, je suis favorable à ça. Je suis favorable à ça, un minimum quand même. Je suis favorable à ça et il s'agit d'une autre espèce. C'est pas parce que quand on dit ça, on m'oppose parfois. Oui, bah alors du coup, si on fait ça, on va aussi. C'est comme si mettre un permis, enfin faire passer des épreuves avant d'avoir un enfant. J'aime pas qu'on me réponde ça parce que c'est pas la même chose. Là, pour le coup, vous voyez, je dis que ça n'est pas la même chose parce que l'enfant est le petit de l'homme. Donc, on est quand même beaucoup plus à même de comprendre un enfant que de le chien, ça s'apprend. Enfin, moi, j'ai 48 ans et j'apprends encore, toujours, en lisant des études. Je découvre chaque jour, enfin, bon, qu'on ne vienne pas me dire que les particuliers n'ont pas besoin d'avoir quelques connaissances quand même avant d'adopter. Alors, il y a ceux qui vont dire, bah oui, mais moi, et je le regrette pour eux, bah oui, mais moi, je les ai, les connaissances, parce que je lis énormément, je le sais que c'est eux qui vont, eux vont pâtir de ça, c'est vrai. Mais, toutes ces personnes qui sont beaucoup plus nombreuses vont adopter des chiens, des races, sans avoir aucune connaissance de rien du tout. Ben oui, si, si, ça me paraît nécessaire, c'est trop dangereux. Il y a trop d'enfants mordus, il y a trop de chiens euthanasiés, il y a trop d'abandon, c'est pas possible. On arrive à un point là où il faut vraiment faire quelque chose.
Déborah, est-ce qu'on observe aussi des comportements similaires aux enfants entre les chiens, type jalousie par exemple?
Entre les des chiens entre eux? Ben
Oui.
oui, bien. Bah, socialement, comme nous, hein, y a des chiens, des amitiés canines qui sont exclusives, hein, où l'un des deux ou les deux ne vont pas tolérer d'intrusion dans la sphère, ou l'un des deux va tolérer et l'autre pas. Et du coup, faut faire attention. Moi, j'ai connu ça avec deux chiennes, hein, qui étaient très, très amies, très proches. Vraiment, elles s'adoraient et elles n'étaient promenées qu'à deux. Il fallait pas les promener à trois, hein, parce que c'était compliqué. Il y en a une qui était très jalouse de sa copine, en fait, hein. Oui, c'est de la jalousie, bien sûr.
Après avoir lu les deux premiers livres d'Audrey, j'avoue comprendre mieux mes chiens. J'ai appris à mieux les écouter, les observer, leur permettre de grandir, entre parenthèses vieillir, dans la bienveillance. Mais j'ai sans doute encore des choses à apprendre. Merci pour ce livre.
Merci. Oh, ben, on a tous des choses, toujours plein de choses à apprendre tout le temps. C'est.
Oui. J'ai même souvent. Après une formation, j'avais l'impression que j'en savais encore moins. Je ne sais pas comment te dire, mais que
je vois très bien de quoi
ça
tu
remettait
parles.
tout en cause.
Ah,
Et je me suis dit,
oui.
putain, j'ai l'impression de. Finalement, je n'aurais pas dû y aller.
Oui.
Nicolas qui rajoute, il y a quelque chose de très important. J'ai l'impression dans votre discours, il me semble, c'est qu'il est question de subjectivité et qu'une situation n'est pas l'autre. Je dirais aussi que ce n'est pas le chien, mais nous. Ce n'est pas le chien, pas nous, mais le lien qui nous unit à lui. un même chien avec un autre gardien aurait donné une personnalité différente, non? Ça voudrait dire que le chien, il est... Ouais, l'environnement fait, mais le chien, il est personnel aussi, il a son
Oui, il y a quand
individualité
même
aussi, hein.
il y a sa il a sa subjectivité, hein. Après, il y a de l'influence, comme avec nous, comme entre nous. C'est-à-dire quand on est proche de quelqu'un, qu'on est très ami, on va se laisser influencer et on va influencer. Mais on a quand même le chien a sa personnalité. Oui, il a sa subjectivité, il a son monde intérieur, il a vraiment son. Et c'est ce qu'on essaye d'aller chercher, évidemment, lorsqu'on veut l'aider. Alors, il y a une part d'influence, oui, comme dans toute relation sociale. Mais je ne suis pas d'accord pour aller jusqu'à dire que avec une autre personne, le chien est quelqu'un d'autre. Ça voudrait dire que le chien est l'ombre de son humain tout le temps, quoi.
Peut-être qu'il exprimerait des comportements avec une autre personne qu'il n'exprime pas avec l'humain avec lequel il vit, ça c'est possible,
Oui, bah parce que c'est un autre environnement.
ouais. Ouais.
Mais la personnalité, le chien est né avec elle, hein. Elle est génétique, la personnalité, il y a une part de génétique dans tout ça. Après, il y a la part qui se construit avec l'environnement, la part environnementale, la part apprise. Mais il y a quand même une part avec laquelle le chien naît. Et ça, on n'y touche pas. Et on fait tout justement pour ne pas y toucher, on fait attention à ça.
Dominique, il y a une réflexion que je me faisais dernièrement. Avec un chien, contrairement à un enfant, auquel on peut donner l'explication, le nom doit être par contre constant pour un même comportement, car il ne peut pas faire des liens différents. Qu'en pensez-vous?
Oui, si on dit non lorsque il mange la terre d'une plante. Bah sinon, c'est pas celle-là, non, mais par contre, celle-là, oui. Là, oui, si c'est ça que la personne veut dire,
Je
je
pense.
suis d'accord. Le chien, ça, oui, il ne va pas comprendre. Bah, là, c'est oui, là, c'est non, pourtant, c'est de la terre. Enfin, c'est quelque chose de. Bon, je prends cet exemple-là, mais.
Oui, c'est bizarre comme exemple.
Bah oui, bon, il est. Tu es vilaine, il est 22 h bientôt, je suis fatiguée.
Oui, on te pardonne. Mais je pense que, ouais, on a compris ce que tu voulais dire. Sandrine, à quel point notre état d'esprit, nos états d'âme peuvent impacter notre chien?
Mais comme mon état d'esprit et mon état d'âme peut impacter ma fille, peut impacter mon conjoint, comme les états d'âme de ma fille peuvent m'impacter, comme les états d'âme de tous les êtres qu'on aime peuvent nous impacter. Le chien, évidemment, est impacté par l'humeur de son humain et par l'ambiance affective dans la maison. C'est social, nous sommes des êtres empathiques et émotifs. Et du coup, lorsqu'une personne est de mauvaise humeur dans la maison, elle atteint tout le monde, y compris le chien. Est-ce que je sais pas si j'ai répondu. Le chien n'est pas dans une bulle qui le protégerait des humeurs de son gardien. Il est empathique et il sent il sait quand ça ne va pas. Et parfois, lorsqu'on trouve son chien distant, ben en fait, quand tu parlais d'introspection tout à l'heure, quand on sent parfois qu'il y a. Mais c'est. Si on s'interroge, ça peut être lié à un état affectif précédent, enfin antécédent, la veille où le chien prend ses distances, où c'est quelque chose qui est tout à fait. Enfin, qui existe entre nous. Je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas chez le chien.
Est-ce que le caractère d'un chien peut évoluer significativement même s'il ne change pas d'environnement?
Le caractère, le tempérament, ben, en fait, le caractère ou le tempérament, souvent c'est la même chose. Enfin, je pense que c'est une expérience émotionnelle apprise dans l'environnement. C'est la marge de manœuvre du rééducateur, en fait. Donc c'est pour ça qu'on veut tellement agir sur l'environnement. Parce que cette expérience émotionnelle qui est apprise dans l'environnement, elle peut se modifier. Un chien qui est en colère peut voir sa colère apaisée si l'expérience environnementale est modifiée. Donc non, un chien ne peut pas changer de tempérament si l'environnement ne change pas.
Sandrine, tu parlais de personnalité ou de comportement en fait quoi. C'est Nicolas, en fait, tout à l'heure, vous voulez parler. En fait, on a, enfin, j'ai peut-être mal lu ou j'ai mal compris. On a mal compris ton commentaire. Et il parlait en fait qu'il existe une relation unique. Entre
Oui.
ça c'est oui. Merci beaucoup Audrey, c'était super.
À toi, merci à vous tous d'être restés pour ceux
Mais
qui sont
heureux,
à
ils
la
disent
fin.
tous merci en tout cas. Hein. C'était
Merci beaucoup, vraiment. Et puis bah, à bientôt sur la page
pour le
Cinépolis.
quatrième.
Bah,
Oui.
on
Chaque chose
verra.
en son temps.